Peut-être que la meilleure version de moi, c'est une version chill.
Si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau et de vos émotions, alors l'épisode de cette semaine va vous plaire.
Qui va me protéger de moi ? Quand la source des fake news, c'est mon propre cerveau. Je prends mon travail très au sérieux, mais je ne me prends pas moi, Albert, au sérieux. Mais pour moi, réussir la vie, c'est qu'elle passe avec le moins de souffrance pour moi et les autres.
Donc tu dis que la vie n'a pas de sens, mais tu viens de lui donner un sens.
J'ai le plaisir d'accueillir Albert Moquebert, docteur en neurosciences et psychologue clinicien porté par une mission, comprendre les mécanismes cognitifs de notre cerveau.
Quoi ? Tu es juste cadre ? Tu peux encore CEO ? Qu'est-ce que tu fais ? Être la meilleure version de moi, faire le maximum de fric, être le plus beau, être le machin, c'est des injonctions qui, en tant que psy, font aussi beaucoup de dégâts. On appelle ça une anxiété de performance.
Pourquoi est-ce que tu fais les choses ?
Mais comprendre ne veut pas dire améliorer, et Albert est très critique de l'ère de l'optimisation de soi dans laquelle on est entré. Une injonction qui est loin de servir notre bonheur.
Est-ce que c'est utile ?
Mais est-ce que le plaisir n'est pas une forme d'utilité ?
Imagine, j'ai une baguette magique, et je fais pfiou, et maintenant tu es la meilleure version possible de toi. Now what ?
Juste avant que l'épisode ne commence, j'aimerais faire un gros big up à tous les fidèles auditeurs et auditrices d'InPower, à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de s'abonner au podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Albert Moquebert.
Bonjour Albert.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower.
Merci.
Je suis ravie de t'accueillir. Big up à Sama, Sama Karaki qui nous a mis en relation. Vous avez sûrement écouté l'épisode avec Sama si vous nous regardez, sinon je le mettrai dans les notes parce qu'il était vraiment super. On va parler de pas mal de choses. En fait, ce qui est bien avec le cerveau, c'est que c'est un sujet inépuisable. Mais avant de, voilà, d'en venir un peu dans tous ces détails, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Je m'appelle Albert. Je suis docteur en neurosciences et psychologue. Et j'aime bien pas faire beaucoup d'efforts.
Tu aimes bien pas faire beaucoup d'efforts. Est-ce que c'est pas paradoxal avec le fait de faire un doctorat ?
Non. Parce que pour moi, de toute façon, on se réveille, on doit faire des choses. Il se trouve que j'ai fait un doctorat. Ça veut pas dire que c'est facile et tout, mais j'avais mes potes au labo que j'aimais beaucoup. Je faisais mon master. Je voulais vraiment pas ne plus être au labo. J'ai fait plus une thèse pour être avec mes potes. Et le sujet m'intéresse, évidemment, mais je pense pas que faire une thèse... Parce qu'on l'a construit petit à petit, une thèse, donc on n'a pas conscience du truc. Je pense pas que ça soit plus difficile que n'importe quoi qu'on apprend au fur et à mesure.
Mais t'as voulu être docteur en neurosciences et psychologue. T'aurais pu te satisfaire de juste docteur en neurosciences.
Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé.
D'accord.
En fait, j'ai fait mes études au Liban, et en sachant que j'étais pas très bon à l'école, j'ai eu beaucoup d'errance... dans mes études, j'ai fait tout et n'importe quoi en gros.
Tu peux nous dire, c'est quoi tout et n'importe quoi ?
Bah, j'ai commencé en biologie parce que je voulais faire de la génétique. Et quand je suis arrivé au cours de génétique, j'ai trouvé ça désastreux. Et surtout, je n'étais pas très bon en chimie organique, des trucs comme ça. Donc j'ai un pote, j'étais un peu geek. J'ai un pote qui venait d'ouvrir une boîte d'informatique. Il m'a dit, tu ne veux pas venir bosser avec nous ? Et à l'époque, il y avait des certifications de Microsoft, on pouvait faire des certifications et le faire. J'ai dit OK. Du coup, je disais à mes parents que j'allais à la fac, mais j'allais plus à la fac, j'allais au taf. Travailler en informatique, en ordi. Puis à un moment, mon père voulait payer la scolarité. Je lui ai dit non, il n'y a pas besoin, genre, je travaille. Il m'a dit non, tu dois au moins avoir un diplôme, même si tu veux faire de l'informatique, on s'en fout, mais tu peux pas, parce que demain, ton pote, sa boîte ferme, qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis bon, ok, je suis reparti à la fac. Et la fac où j'étais, c'est l'université américaine de Beyrouth. Dans le système américain, tu peux choisir tes matières. C'est pas.
Ouais.
C'est plus.
C'est un peu à la carte.
C'est un peu à la carte.
C'est sympa ça.
Tu as un diplôme et après tu peux piocher un peu. Et tu peux être ce qu'on appelle majorless. C'est-à-dire que tu n'as pas de cursus
major,
encore.
Ouais.
Et donc tu peux découvrir. Donc je suis reparti à la fac, j'ai pris les cours d'informatique, j'ai détesté. C'était un cauchemar. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de tout et n'importe quoi. Littéralement, j'ai pris des cours de s'occuper des animaux domestiques, des cours de poterie, de peinture, etc. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho. Et il se trouve que soudainement, j'étais relativement bon. Je galérais plus à avoir de bonnes notes, la prof était top. Donc j'ai commencé à faire de la psycho. J'ai eu une licence de psycho et un doc de bio, parce que j'avais commencé en bio bien avant. Et je savais pas trop quoi faire. Et j'ai une amie qui était venue à Paris pour faire des études. Elle m'a dit, pourquoi tu viens pas ? J'ai beaucoup suivi mes potes, en fait. Pourquoi tu viens pas faire un master de psycho et après, si tu veux rentrer au Liban, tu rentres au Liban. Je dis, ok. Elle m'a dit, moi, je te présente le dossier et tout. Si tu es pris, tu viens. J'étais pris. Je suis venu faire un master 1 à Paris 5 à l'époque, à Boulogne. Il fallait un stage. Donc, j'ai trouvé un stage à la Pitié-Salpêtrière. Et il se trouve qu'en France, il me dit, on est en train d'ouvrir un master de neurosciences. Est-ce que tu voudrais pas faire ça ? J'ai dit, ok. Je fais mon master de neurosciences. Il dit, il y a une bourse, tu veux présenter pour une bourse, pour une thèse ? J'ai dit, ok. C'est pas genre je me suis mis et j'ai planifié ma vie en disant j'ai envie d'être psychologue et neuroscientifique. Je voulais rester avec mes potes. Qui sont encore mes potes. Donc
mais ça a bien tourné, parce que parfois tu veux rester avec tes potes et en fait tu vends de la drogue.
Ouais.
Tu vois.
Je pense que j'en ai fait aussi ça, mais.
Mais toi après, choisis mais, la voie de la raison.
Voilà, exactement.
Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton discours, dans ce que j'ai entendu et lu de toi. Mmh. Et qui, d'ailleurs, quand on s'est appelé avant d'organiser cet épisode, j'avais cru que tu faisais référence à, tu sais, mon blaze sur les réseaux, qui est My Better Self.
Ouais, alors, je ne savais pas du tout.
Et du coup, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que toi, tu es critique, et je respecte totalement ça, de cette démarche de vouloir devenir la meilleure version de soi-même?
Je suis critique, pas de la démarche, je suis critique de l'injonction. C'est-à-dire, ouais. Si une personne me dit, moi, je sais pas, j'adore les échecs, je veux être le meilleur joueur d'échecs au monde, ok. Mais ma critique, c'est dans une période, c'est pas du tout contre ton blaze,
ouais, oui,
je savais pas quand je l'ai dit.
Mais même moi, je deviens critique de ça aussi.
C'est que on veut pousser les gens à être les meilleures versions d'elles-mêmes, indépendamment du prix que ça coûte, indépendamment de qu'est-ce que ça fait, de la pression qu'on se met, etc., etc., sans vraiment comprendre pourquoi. C'est comme si le but est juste d'être la meilleure version de soi-même. Est-ce que la meilleure version de moi-même va... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire moi-même? Donc moi, je travaille beaucoup sur cette notion qu'on appelle le self. C'est quoi moi-même? Est-ce que moi-même, par exemple, disons moi, donc je suis neuroscientifique, je suis psychologue, mais aussi j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien les échecs, j'aime bien mes potes. La meilleure version de moi-même, est-ce que c'est le meilleur neuroscientifique possible? Et si je veux être le meilleur neuroscientifique possible, malheureusement, le temps est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, on est en train de filmer ce podcast, cette émission, je sais pas. Ça veut dire que je ne peux pas être ailleurs. Donc, si moi, je veux être la meilleure version de moi-même de neuroscientifique, ça veut dire que, par exemple, je vais jouer moins aux jeux vidéo. Donc, je vais être une moins bonne version de moi-même en tant que joueur de jeux vidéo, ou une moins bonne, etc. Et donc, automatiquement, on est en train de perdre d'autres trucs. Ça, c'est un. Deux, c'est la pression. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'être la meilleure version de moi-même pour ce que je veux faire dans la vie? Par exemple, j'ai envie de passer la vie de la manière avec le moins d'efforts possible. Être une meilleure version de moi-même, ça va paradoxalement aller contre ce que j'ai envie. Et surtout, cette universalité de vision méliorative de l'humain qui souvent déteint, c'est pas obligatoire, mais qui souvent déteint sur un côté très individualiste. C'est-à-dire, je veux être la meilleure version de moi-même, indépendamment de ce que ça me coûte. Même si ce que ça me coûte, c'est écraser d'autres gens, perdre en redistribution des ressources, etc., etc. Il y a tout ce truc de s'il y a quelqu'un de toxique dans la vie, couple de ta vie, etc. Non, non. Si mon meilleur pote devient toxique, je ne vais pas le jarter de ma vie. Je vais essayer de voir est-ce que je peux l'aider, par exemple. Pour moi, c'est des valeurs qui sont très connecté aujourd'hui, encore une fois, en tant que mouvement, si une personne me dit, je sais pas, je vais être le meilleur chercheur au monde, je vais essayer de l'aider pour être le meilleur chercheur au monde, sans que moi je le devienne. Mais c'est très... ça ôte une dimension sociale qui pour moi est nécessaire pour notre espèce, et donc ça s'inscrit aussi dans une philosophie plus large de être la meilleure version de moi, faire le maximum de fric, être le plus beau, être le machin. C'est des injonctions qui, en tant que psy, font aussi beaucoup de dégâts. Parce que parfois, on se dit, je fais tous les efforts au monde, c'est ça la meilleure version de moi-même? Genre, je sens que je suis encore pas top, il y a tellement de gens meilleurs que moi. Et donc, notre cerveau est comparatif. Et je pense que ça a beaucoup de... Je comprends l'intention qui est très positif, de genre, sois la meilleure version de toi-même, mais quand on regarde dans le réel, je trouve que ça a des effets très paradoxaux qui peuvent être très délétères. Et peut-être que parce qu'en tant que psy, je vois beaucoup plus de personnes qui vont mal à cause de cette injonction.
Tout à fait. Mais en fait, moi, ma question, c'est, enfin, ce que je me demande, c'est, est-ce qu'on le choisit vraiment? Je pense que j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a un facteur sociétal qui est indéniable, mais il y a aussi presque un facteur, j'ai envie de dire, génétique, où j'ai lu que toi, par exemple, tu parlais des échecs et tu disais que tu n'avais pas forcément envie de devenir le meilleur joueur d'échecs au monde, que tu kiffais juste jouer aux échecs. Ouais. J'aimerais beaucoup, moi, juste faire quelque chose et me satisfaire de l'exercice de cette activité. Mais j'ai l'impression que je suis un peu wired, enfin branché, pour chercher à faire mieux. Et je tire une vraie satisfaction de me dire, en musculation par exemple, j'ai soulevé un peu plus lourd, je suis allé un peu plus loin. Et voilà, est-ce qu'on peut finalement se détacher de cette recherche incessante de performance ? Parce que je suis la première à vouloir m'en détacher.
Alors il y a deux choses dans ce que tu dis. Donc il y a, est-ce qu'on peut s'en détacher ? Et je pense que oui, parce que je pense que, encore une fois, on présente le self comme une sorte de monolithe, alors que quand on le comprend, c'est pas comme ça. Donc il y a des parties en toi qui probablement n'essayent pas d'être les meilleures. Et donc comment est-ce qu'on peut faire ? Mais surtout, je reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire si par exemple toi, tu as cette drive, tu as ce wiring qui fait que tu as besoin d'être la meilleure tout le temps, pourquoi pas ? Mon problème n'est pas avec une personne qui me dit « je vais être la meilleure personne possible ». Mon problème, c'est vraiment avec une sorte de courant de pensée qui dit que tout le monde
doit
être la meilleure version d'eux-mêmes. En sachant que, je ne sais pas, par exemple, je joue à la guitare. Quand on commence à jouer à la guitare, on appuie sur les cordes de toutes nos forces pour faire sortir le son, pour ceux qui connaissent un peu la guitare. Mais à un moment, on réalise que je n'ai pas besoin d'appuyer de toutes mes forces. Par exemple, 20% de ma force est assez pour sortir un son assez net, 30% de ma force. Et donc aussi, quelque part, être tout le temps au setting maximum, peut-être que je suis en train de perdre beaucoup de force. Imagine que je vais être le meilleur joueur d'échecs au monde, par exemple, et je suis un génie des échecs. Peut-être que être 70% de better self que je peux être est assez pour gagner tout le monde. Pourquoi est-ce que je vais mettre ces 30% en plus, en sachant que quand on est dans une phase d'apprentissage, plus on gagne, plus on arrive au bout, et plus il faut plus d'efforts pour combler des mini progrès. C'est-à-dire, si moi, je sais pas, je joue à la guitare, il me faut 50% pour pouvoir jouer 90% des morceaux au monde, on va dire, c'est des chiffres au hasard. Et après, pour chaque pourcent en plus, il faut mettre un effort de dingue. Mmh. Il faut se demander, est-ce que cet effort
vaut la peine,
et surtout qu'est-ce que c'est en train de me coûter, parce que le temps est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, est-ce que je vais investir 10 heures par jour pour m'améliorer de 1%, alors que ces 10 heures, je ne suis pas en train de les passer avec mes potes, à d'autres activités, peut-être que à côté de, je ne sais pas, la muscu, tu aimes bien, je ne sais pas, découvrir de la nouvelle musique, et que tu n'arrives pas à découvrir de la nouvelle musique en faisant de la muscu, pour une raison ou pour une autre, ben, tu es en train de perdre d'autres trucs. Donc il y a déjà ça. Et deux, encore une fois, c'est que cette better self n'est pas en train juste d'être, par exemple, je vais être la meilleure personne la plus qui a le plus de compassion, le plus de compréhension. Parce que aussi, il y a des sortes de disorders, c'est pas qu'on dit de troubles, qui sont en train d'émerger. Par exemple, je vais être la meilleure version de moi physiquement. Tout le monde connaît deux troubles du comportement alimentaire, l'anorexie et la boulimie. Et maintenant, on est en train de voir émerger un nouveau trouble, l'orthorexie. Il faut tout le temps, my body is my temple, il faut tout le temps que je mange hyper sain. Je fais un dîner, je préfère ne pas manger que prendre un bout de pain, parce que qu'est-ce que je vais faire de mon compte calorique ? Et donc, il y a quelque part une sorte, on appelle ça une anxiété de performance. Ce n'est plus un truc sain en mode, je veux être la meilleure version de moi. Évidemment que je ne me réveille pas en me disant, je vais être un mec pourri. Mais c'est peut-être que la meilleure version de moi, c'est pas, en fait, dans le mot meilleur, on peut dire que meilleur, c'est au max. Mais peut-être que meilleur, par exemple, c'est où je me sens le plus confortable. Peut-être que la meilleure version de moi, c'est une version chill.
Comment cette perception des choses influence ton rapport au temps ?
Ça influence beaucoup mon rapport au temps, dans le sens, un, que je dis jamais que j'ai pas de temps.
D'accord.
Donc par exemple, je consulte un jour par semaine, parce que j'ai plein d'activités, et donc je suis full. Mais par exemple, je dis jamais non à de nouvelles personnes. Même si je vais les voir une fois et après les réorienter. Si quelqu'un m'écrit un mail, me dit, je sais pas, je t'ai écouté sur le podcast et je trouve ça vraiment bien, je pense que tu me conviens, est-ce que tu peux me prendre en thérapie ? Je dis tout le temps ok. Je pense que quand on n'a plus le temps, on est mort. Genre, c'est le seul truc qu'on a. On peut perdre notre argent, on peut perdre notre pote, on peut perdre notre santé, on peut tout perdre, mais le temps, c'est la seule chose qu'on a tout le temps. Mm-hmm. Parce que par définition, la mort, c'est la fin du temps de la personne. Et surtout, je ne m'aimais pas vraiment de... Je ne cours pas. J'essaye de ne pas courir. Alors que si, quand je raconte tout ce que je fais, les gens disent, mais comment est-ce que tu as le temps ? Et je pense que c'est une attitude intérieure. C'est-à-dire, je sais pas, aujourd'hui on filme, après j'ai un truc, puis j'ai un truc, puis j'ai un truc, puis j'ai un truc, puis j'ai un truc, mais je me déplace lentement.
Tu n'es pas dans une recherche d'optimisation de ton temps ?
Pas du tout.
Parce que tu vois, ce que j'admire avec cette mentalité, c'est que, en effet, moi j'ai conscience du fait que vouloir, alors c'est pas forcément devenir la meilleure, mais en tout cas m'améliorer dans un domaine, voilà, que ce soit pour ma marque de sous-vêtements, que ce soit pour le podcast, l'écriture, ça demande d'y allouer du temps, parce qu'on devient meilleur avant tout avec la pratique. Mm-hmm. Tu me diras si c'est bien le cas.
Ouais, c'est clair.
Mais Mais d'un autre côté, en effet, j'ai envie de consacrer quand même du temps à mes amis, à ma famille, à lire, enfin, à faire des choses que j'aime. Mais j'ai l'impression que tout ça demande une discipline et justement, enfin, tu vois, un côté très, enfin, moi, je suis assez, j'essaie de trouver un terme positif, mais assez, on va dire avare, hein, mais je fais attention à où j'alloue mon temps, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que je serai épanouie, parce que du coup, je fais attention à ne rien laisser, ou en tout cas à laisser le moins de côté possible.
Alors que moi, j'ai un peu le truc inverse. C'est-à-dire, moi, perdre du temps, c'est quelque chose qui n'est pas très grave. Pour des raisons aussi liées à mes sujets d'études, par exemple, perdre du temps, genre j'ai pas envie de perdre mon temps, c'est un truc très récent dans l'histoire de l'humanité. On appelle ça la commodification du temps. C'est quand le temps est devenu une commodité. C'est devenu quelque chose qui a une valeur. Et ça, ça a commencé il y a 200-300 ans avec la révolution industrielle, la création de l'emploi, etc. On n'a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé, s'il y a des personnes qui connaissent, bon, je suis très content d'en découvrir, mais je n'ai pas trouvé aucune trace d'un texte qui parlait de la perte du temps avant genre 1700. Ça n'existe pas. Parce que le temps est quelque chose qui est en trame de fond. C'est tout ce qu'on a. Et je trouve ça assez fascinant que pendant la majorité de notre existence, le temps n'a jamais été une pression. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas, tu veux voir ta pote, vous devez vous écrire et limite organiser un planning de dingue pour se voir. Avec ma pote, genre, est-ce que tu serais disponible pour un déjeuner mardi? Non, mardi, je peux pas. Mercredi. Et moi, j'aime bien la spontanéité des rapports humains. Tu passes pas dans le quartier, salut Albert, je suis chez toi, tu es à la maison, oui, monte. Même si je suis en train de faire quelque chose, je repasse. Et on va, je sais pas, prendre un café, on prend un thé, ou au pire, chacun fait ses trucs, mais on est ensemble. Et donc parfois, c'est important pour moi de perdre du temps, de me rappeler tout le temps que ce truc ne devrait pas devenir un truc hyper important. Parce que je pense pas que maximiser le temps qu'on met dans un truc automatiquement le rend meilleur. Je pense que ça passe par la pratique, mais ça passe aussi parfois par laisser de côté, par voir qu'est-ce qui se passe. C'est quand on est dans le contrôle, on laisse tellement peu de place à l'imprévu. J'aurais pu m'écrire, on dirait, ah, j'ai rencontré Sama, est-ce que tu veux venir ici? J'ai mon livre à écrire, j'ai des tonnes de trucs, etc. Te dire, c'est pas le moment, je suis sous l'eau, etc. Je dis, ok. Genre.
Ça a une limite, ça, quand même.
Oui, bien sûr.
Tu vois, c'est-à-dire que si t'étais... tu vois, si là, après cet épisode, tu reçois 200 messages de personnes qui veulent une consultation, tu peux...
Je les mets sur un an, s'il faut. Je
d'accord.
Leur dis, voilà, si
okay.
Vous voulez, bah, vous venez en janvier.
Mais est-ce que ça veut dire que tu dis oui à tout?
Ouais, quasiment.
Ah, donc t'es en mode yes man?
Ouais.
T'as vu le film?
Ouais. Sauf que je suis pas en train de yes maner un patron ou quelqu'un. Je suis en train de yes maner...
Ta vie.
Pas nécessairement ma vie. C'est-à-dire, en fait, par défaut, je dis oui et il me faut une raison très légitime pour dire non. On va dire ça comme ça. Après, j'ai des priorités, par exemple. Ouais. Je sais pas, il y a le dîner du siècle et genre, c'est le who's who de tout le monde. Je sais que ça va me faire un networking de dingue pour mon taf, etc. Mais, je sais pas, des potes à moi m'ont dit qu'on va hang out pour un truc important pour l'un d'entre eux. Je vais aller voir mes potes ou je vais passer du temps avec ma fille ou je sais pas. Mais parfois, je vais peut-être aller au dîner. Mais en général, par défaut, je dis oui, sauf quand j'ai une raison importante.
De dire non.
De dire non. Par exemple, je sais pas, on m'invite à un podcast sur une chaîne qui a reçu des personnes qui, pour moi, ne devraient pas avoir de plateforme pour des raisons... Je suis quelqu'un d'assez engagé, donc pour des raisons idéologiques, politiques, je vais pas dire oui. Mais une chaîne qui a un abonné, et c'est la maman de la personne qui a la chaîne, me dit, j'ai vu tes vidéos, je trouve ça vraiment top, je suis en train d'essayer de démarrer un podcast, j'ai besoin, est-ce que tu peux venir Ça va te prendre 5 heures. Je dis ok. Parce que je prends mon... Ça va paraître très prétentieux, mais je sais pas comment l'expliquer différemment. Je prends mon travail très au sérieux, mais je me prends pas, moi, Albert, au sérieux. Je suis pas en train de chercher à réussir dans le sens de la réussite professionnelle. Je suis en train de chercher à essayer de réussir la vie, évidemment. Mais pour moi, réussir la vie, c'est qu'elle passe avec le moins de souffrance pour moi et les autres.
Est-ce que tu as changé de vision des choses là-dessus? Est-ce que tu avais la même définition de la réussite de la vie il y a 20 ans?
Non. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais en train de grandir, tout le monde me disait, à un moment, tu vas grandir. Genre, tu vas abandonner ce côté. Et j'en parlais avec un de mes potes la dernière fois parce que je disais, en fait, je deviens de plus en plus radical sur ce truc. Alors que les autres sont en train d'aller... En anglais, on dit adulting. Tout le monde est en train de adult autour de moi.
Devenir des adultes, quoi. Ouais.
Et moi, j'ai l'impression que je me radicalise sur ce truc de... Je sais pas, par exemple, quelqu'un m'écrit pour une conf. Je dis non, je peux pas. Il me dit non, mais on a un budget. Je sais pas, je peux te payer des sommes qui sont parfois, en tout cas pour moi, complètement démentes. Mais non, genre, si c'est non, non. Alors que mes potes me disent, mais genre, c'est une heure, tu vas te faire, je sais pas combien. Et c'est parce que aussi, j'ai le privilège de pouvoir dire non. Évidemment, j'ai bossé, quand je suis arrivé du Liban, j'avais aucun rond, etc. J'ai fait tout et n'importe quoi comme taf. Mais maintenant que j'ai ce privilège, j'ai pas envie. Je sais pas, j'ai pas envie, en fait.
Bah, c'est ce qui compte le plus, au final, c'est... en effet. Ça
je comprends pas,
hein,
je comprends pas le truc. Je sais pas, je fais un truc qui marche très bien. On me dit, bah maintenant, il faut un deuxième. Non. Pas parce que j'ai pas envie, pas parce que... Parce que si, je pense que les drives des gens, leur motivation, doivent dépendre d'eux. Et pas d'une sorte de pression d'être le meilleur, d'être le machin, de faire ce truc. C'est vraiment, ça se résume en une phrase, c'est juste ne pas se prendre au sérieux. Genre, je me prends pas au sérieux. Tu peux me manquer de respect, tu peux m'insulter, tu peux machin. C'est pas très grave. Je me prends pas au sérieux. Mais juste ne dis pas des choses qui sont fausses sur la compréhension du monde. Genre, je suis beaucoup plus énervé quand quelqu'un va parler, je sais pas, va dire on n'utilise que 10% de notre cerveau et on va vous entraîner à en utiliser plus que si quelqu'un vient et m'insulte.
Ouais,
je
ne
suis pas
particulièrement
attaché à moi.
Mais ça, d'ailleurs, c'est assez fou. J'écoute pas mal de podcasts anglophones et parfois, j'ai vraiment l'impression que le putaclisme vaut plus que l'information et la véracité. Et on en parlait avec Sama, quoi, des gens qui disent bah voilà le cerveau gauche, voilà le cerveau droit, ouais. Voilà comment développer son cerveau gauche. Et enfin, les mecs ont des PhD, quoi.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que derrière ces sursimplifications, bah justement, il y a tout le temps un côté amélioratif. C'est-à-dire, personne ne dit le cerveau fonctionne en cerveau gauche, cerveau droit pour la connaissance. Le cerveau fonctionne en cerveau gauche, cerveau droit, je vais vous vendre un test pour savoir si vous êtes plutôt cerveau gauche, cerveau droit, et puis je vais vous vendre une manière de devenir la meilleure version de vous en boostant vos capacités créatives, etc. Je fais des conférences en entreprise, j'écris des bouquins, etc. Et tout le temps, on me dit, bah, qu'est-ce qu'on va tirer de ta conf? Genre, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Et 9 fois sur 10, je dis, il n'y a rien. J'ai pas de technique magique. Genre, je travaille sur les biais cognitifs, une sorte de manière de fonctionner de notre cognition. On dit, ok, mais est-ce que vous pouvez nous proposer un atelier sur comment être moins biaisé? Genre, non. Non, je pense qu'on est une espèce hyper intéressante. Je pense que notre cerveau est un organe hyper intéressant. Et ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de transmettre cette complexité, de dire, c'est hyper compliqué, en fait, et d'expliquer pourquoi c'est hyper compliqué. Et donc, ça va, c'est presque en opposition avec ces tips and tricks pour devenir plus créatif, pour devenir meilleur raisonneur, pour devenir un meilleur leader, etc. Mais ces trucs de sursimplification du cerveau, je vous êtes déprimé parce que vous manquez de sérotonine, les réseaux sociaux nous rendent addicts parce que vous êtes de la dopamine, etc. Et il y a tout le temps derrière cette vision améliorative qui automatiquement est commerciale parce que je vais vous rendre meilleur grâce à moi. Et donc, ça va être « faites une dopamine détox ». Et venez faire mon cours de 8 séances de dopamine détox. Il y a un livre qui s'appelle genre Draw with your right side of the brain, genre comment dessiner avec ton... Même pour des choses qui ne sont pas supposées être de la performance, genre apprendre à dessiner, supposé être une sorte de plaisir sans pression, ça devient sur les neurosciences. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon prochain livre, c'est cette neuromanie de vouloir tout expliquer par les neurosciences pour vouloir... Parce que ça fait sérieux, parce que ça fait scientifique. Genre, on a trouvé l'aire du cerveau qui est pour la peur. Apprenez à reprogrammer votre amygdale. Et c'est de là.
C'est
que
vendeur. Vient, hein, ouais.
Parce qu'il y a cette dimension de vente derrière. Alors que pour moi, la connaissance est intéressante en tant que telle, même si elle n'est pas opérationnalisable. Et grâce à cette discussion, je pense que ça m'a un peu clarifié les idées. C'est-à-dire que je ne suis pas tant contre devenir une meilleure version de soi, tant que je suis contre vouloir tout le temps puiser une utilité de tout. Tout doit être utile. À quoi ça va servir? Quand une boîte me contacte pour un truc, elle me dit comment est-ce que ça va aider nos collaborateurs? Parce qu'il ne faut pas dire salariés maintenant, il faut dire collaborateurs, alors que c'est des salariés. Comment est-ce que ça va aider nos collaborateurs? Je leur dis, ils vont juste apprendre des trucs. Ça va pas, il n'y a rien. Je peux pas. Si je pouvais aller vous faire une conférence de 1 heure et après vos équipes sont plus créatives, gérer le prix Nobel. Je serais pas en train de vous faire des confs. c'est dingue de se dire. Je vois une personne qui a une dépression légère et on a besoin de 1, 2, 3 mois de thérapie pour aller mieux. Et puis je vois des gens qui sont en train de promettre monts et merveilles dans un atelier inspirant de 2h, de 9h à 11h du matin. Et après, genre, pour moi, c'est presque insultant à notre complexité.
Et dangereux pour la vulnérabilité des personnes qui entendent tout ça.
Je pense pas que c'est hyper dangereux. Je pense pas qu'il y a des gens qui sont en train, genre, leur vie est en train d'être cassée parce qu'ils ont fait. En fait, je pense que ça change pas grand chose. C'est-à-dire, ces ateliers de, on va booster la créativité, on va booster le team building, etc. Je pense pas que ça booste. Je pense pas que c'est délétère. C'est juste que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte des trucs, etc. Et ça crée une illusion de amélioration. Alors que je pense qu'on devrait questionner cette vision améliorative de l'humain, que l'humain est né pour être la meilleure version de lui. Ça peut être pour être la meilleure version de, je ne sais pas, la ville dans laquelle on vit, d'avoir un côté plus social.
J'entends totalement. Je ne pense pas que l'humain est né pour être la meilleure version de soi-même. Je pense en effet que c'est très propre au contexte dans lequel on vit,
ouais.
Mais qui vit quand même pour, comme tu le disais, avoir le moins de souffrance, donc le plus de plaisir, et j'emploierai pas le terme de bonheur parce que je ne crois pas au bonheur, mais plus de d'épanouissement possible. Et pour moi, ça peut passer par l'amélioration. Par exemple, moi, il y a un sujet, j'en parle à toutes les personnes qui maîtrisent de près ou de loin le cerveau, un sujet sur lequel j'aimerais vraiment m'améliorer, c'est le niveau de concentration et surtout le flow, donc à savoir un niveau de concentration tel qu'on oublie que le temps passe.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une conscience aiguë du temps qui passe.
Ouais.
Et de ce que j'ai à faire après, etc. Et les moments dans ma vie où j'ai été le plus épanouie, c'était quand je perdais la notion du temps et j'étais tellement dans mon truc que mon cerveau lâchait prise, entre guillemets. Ça, voilà, je ne sais pas ce que t'en penses. On peut critiquer cette volonté de vouloir toujours, du coup, s'améliorer, mais le fait est que ça me rendrait plus épanouie.
Oui, encore une fois, on est en train de mélanger ta volonté en tant qu'individu et une injonction sur les autres. Que tout le monde devrait faire ça. Par exemple, l'état de flow, super état, nécessite deux facteurs. C'est quelque chose qu'on a étudié. Il faut qu'une tâche soit difficile et que ton niveau soit très bon. Donc le temps d'arriver à l'état de flow, tu dois t'améliorer et faire des choses qui commencent par être assez faciles. Par exemple, on ne peut pas être en flow en jouant du piano avant d'être assez bon et en train de faire un morceau assez difficile. C'est très difficile d'être en flow en Frère Jacques. Mais donc pour arriver là-bas, il faut que tu mettes tout cet effort. Pour que tu mettes tout cet effort, c'est un effort que tu n'es pas en train de mettre ailleurs. Et donc, il faut décider, délibérer. Et le problème, c'est que quand tu as cette vision améliorative de toi, c'est que ça coûte du temps et de l'énergie, etc., ça peut être très frustrant. Parce que l'apprentissage est quelque chose qui est difficile, tu vas sentir que tu stagnes, que tu sers un plateau, que plus rien n'est en train d'avancer, que parfois tu es même en train d'aller en arrière, donc que tu persévères, tu vas être peut-être plus irritable, tu vas peut-être t'énerver plus facilement sur des gens qui bossent avec toi, sur tes potes, etc. Et il faut accepter tout ce chemin. Le problème, c'est quand on dit « je vais développer une technique qui te permet d'être en flow en 10 minutes ». Et donc la personne, et après derrière il y a des commentaires « oui j'ai essayé, c'est trop bien ». Donc imagine une personne qui l'essaye et pour qui ça ne marche pas, cette personne intériorise
son incapacité.
Ouais, elle se dit « je suis nul ». Alors que non, ce n'est pas qu'elle est nulle, c'est que la méthode est un peu pourrie. Mais la méthode est certifiée, c'est une personne hyper connue qui l'a faite, etc. Et on le voit dans tout, que ce soit, je sais pas, dans les compétences sociales, dans juste la satisfaction de vie. On appelle ça, en anglais, ça s'appelle la hedonistic treadmill.
Oui. L'adaptation hédonique, en
ouais,
français.
L'adaptation.
Adaptation hédonique.
Je trouve qu'en anglais, c'est mieux, parce que treadmill, c'est le tapis de
ouais,
gym.
Ouais.
Et c'est cette course permanente de vouloir tout le temps chercher une sorte d'état de grâce, que ce soit le flow, que ce soit la satisfaction, que ce soit ne plus avoir d'émotions négatives. Et paradoxalement, c'est cette course qui est en train d'empêcher ces sensations d'arriver. C'est-à-dire, si par exemple, toi, tu es tout le temps en train de penser à qu'est-ce que tu vas faire après, en fait, peut-être que tu ne sentirais pas le temps passer juste en ne pensant plus au temps.
Oui, mais je ne choisis pas.
Oui, je sais, mais après,
après,
ça se travaille à l'échelle individuelle. Et enfin, la version améliorative, quand on dit on veut passer la vie avec le moins de souffrance, il y a des personnes pour qui la souffrance n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. Par exemple, je ne peux pas ne pas souffrir si je sais qu'il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas que moi, je suis comme ça. Mais déjà, la souffrance est différente pour tout le monde.
Ouais.
Il y a des personnes pour qui savoir qu'elles ont aidé une personne toxique au lieu de la jeter de leur vie, ça leur apporte une gratification beaucoup plus importante que « Ah ouais, j'ai plus cette personne toxique dans ma vie, mais du coup, je suis seul. » Et donc, mon problème, c'est plus avec ces sortes de généralisations qu'il y a une méthode. Pour moi, la vie n'a pas de sens. Et donc, il n'y a pas une méthode, un sens intrinsèque à la vie. Et donc, ces injonctions, et évidemment que c'est très propice à notre époque, parce qu'on ne peut pas sortir une philosophie, une connaissance est fille de son époque. On est tout le temps, c'est comme des vases communicants. Donc, tout ça, ça s'inscrit aussi avec le American Dream, l'ultralibéralisme, l'ultraconsumérisme, de tout le temps avoir tout est un produit. Tout. On ne devient que des sociétés de services. En gros, si tu as de l'argent, tu as accès à des services en plus. Tu peux avoir un coupe-fil à l'aéroport. Il y a des aéroports qui maintenant ont le truc VIP. Tu coupes la file, tu coupes la sécurité, tu coupes tout. Tu peux avoir un taxi plus facilement. Tu peux avoir tout. Tu peux aller à des vacances plus cool, etc. Et donc l'index devient juste l'argent. Si tu as de l'argent, tu as une vie plus facile. Tu as pas d'argent. Et l'écart est beaucoup plus grand parce qu'il y a des gens qui vont me dire ça a toujours été comme ça. Non, l'écart n'a pas du tout été toujours comme ça. Du tout. Genre, c'est une sorte de
mythe. Mais c'est vrai que on aurait tendance à penser que quand il y avait des classes sociales, je sais pas, je pense à l'époque médiévale où tu avais voilà, le tiers-état, la seigneurie et le clergé, enfin, tu avais quand même une énorme diff. Alors, c'était peut-être sur un pourcentage moins élevé, moins important de personnes riches.
Oui.
Mais tu avais quand même des écarts surtout, qui, en
pas,
effet, étaient...
Mais il n'y avait pas le rêve. C'est-à-dire, tu es né dans une case et tu le rêves. Donc, ça change tes aspirations et tes ambitions.
Tu ne pensais même pas que c'était possible, donc tu te contentais de ce que tu avais.
Je suis né paysan, je ne peux pas me dire à moi, mon rêve, c'est de devenir un seigneur. Parce que, de prime abord, tu es mal né. Ce n'est pas possible.
Oui.
Notre cerveau est comparatif. On se compare avec des trucs qui sont dans notre environnement. Alors qu'avec le American Dream, c'est... Non, tout le monde peut devenir Steve Jobs, tout le monde peut devenir Bill Gates, etc. Alors que dans les stats, c'est pas vrai.
Ouais,
et donc, tu internalises l'échec. C'est un peu le travail de Sama, qu'elle développe dans son bouquin. C'est-à-dire que tu vas internaliser l'échec parce que tu te dis, tout le monde me dit que c'est possible et moi, j'y arrive pas. Donc, c'est de ma faute. Et du coup, tu te retrouves avec tous ces gens qui sont dans cette hedonistic treadmill, cette adaptativité hédonique ou hédoniste où tu es tout le temps en train de courir alors qu'on a des recherches qui montrent, genre qu'un joueur de foot qui dit ah mon rêve c'est de gagner la coupe du monde, il gagne la coupe du monde, on va lui dire ok, est-ce que tous ces efforts que tu as fait, tu as reçu une récompense qui est assez satisfaisante, et ils disent en fait non, genre j'étais très content, j'étais on top of the world pendant 2 jours et après c'était retour à l'entraînement.
Ouais. C'est quoi toi ton rapport à l'échec?
C'est chiant, genre c'est nul, personne n'a envie d'échouer. Une fois, je fais des vidéos parfois avec Welcome to the Jungle, et on a fait une vidéo sur l'échec, et ça me fait très marrer, parce que très souvent, on ramène des gens, c'est quoi ton plus bel échec, etc. Ce que j'expliquais, c'est que souvent, ces gens, ils sont pas là pour parler de leurs échecs, ils sont là pour parler de leur réussite, faire une sorte de fausse humilité, genre j'ai échoué, ma boîte était au bord de la faillite, mais la personne, maintenant, elle est clairement une personne qui a réussi. Donc, elle est juste en train de dire j'ai échoué pour mieux réussir. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Sioran. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont échoué et pas réussi. Et on ne fait jamais ça. On n'invite jamais quelqu'un qui a échoué et qui n'a pas réussi. Et donc,
mais pourquoi,
moi, je n'aime pas échouer. Après, je comprends que dans des situations d'apprentissage, c'est nécessaire. Je comprends rationnellement que je suis obligé pour devenir meilleur, de parfois ça ne va pas marcher, de parfois quelque chose ne va pas fonctionner. Mais venir dire genre « Ah, quand j'ai un échec, je me dis c'est une opportunité d'apprentissage, m'ouvrir à la vie et tout. » Non, quand j'échoue, genre ça fait chier.
Oui, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, pourquoi est-ce qu'au moins j'invite pas des gens, par exemple, qui ont enchaîné les échecs, mais parce que tu dis « What's the point ?» Tu vois, c'est... Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui...
Je suis d'accord avec toi. Du coup, pourquoi dire qu'on s'intéresse à l'échec ? On s'intéresse pas à l'échec, on s'intéresse à la réussite.
Oui.
Et on veut juste être plus humble, donc on dit « Ah, je m'intéresse à l'échec ». Mais si on s'intéresse à l'échec, bah, autant inviter des gens qui ont échoué,
ouais.
Et c'est tout. Et dans ce cas-là, tu vas arriver très vite à ton raisonnement, mais what's the point ? Pourquoi est-ce que je suis en train d'inviter quelqu'un qui va me dire « En fait, j'ai ouvert ma première boîte, elle a fait faillite, je suis allé m'embaucher dans une boîte miteuse, j'ai été viré, et maintenant je suis au RSA, et je sais pas comment je vais m'en sortir ». Peut-être que ça peut être hyper intéressant, et peut-être que quelqu'un va le faire, et moi en tout cas, je regarderai. Mais souvent, quand on dit on va parler de l'échec, c'est de la fausse modestie pour dire en fait on va parler de comment tu as galéré avant de réussir hyper bien. Et donc c'est comme si on est à la fin du film. Donc oui, l'échec est nécessaire, mais on va pas aller le glorifier et raconter. Genre les gens qui échouent, et qui n'ont pas la chance après de rebondir, de je sais pas machin, personne n'a envie d'être à leur place, même eux. C'est hyper difficile. Et donc, j'aime pas échouer, même si c'est inévitable. Mais...
Alors, il y a quand même, du coup, quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu ne cherches pas, j'ai l'impression, consciemment à t'améliorer, mais tu n'aimes pas non plus échouer. Donc, pourquoi est-ce que tu fais les choses ?
Déjà, c'est pas que je cherche pas à m'améliorer, je cherche pas à devenir la meilleure version de moi. C'est très, très, très différent. Évidemment que je cherche à m'améliorer en tant que chercheur en neurosciences. J'essaie de comprendre comment fonctionne le cerveau, j'essaie de comprendre ce qui ne sont pas des sujets faciles. Hein. Mmh. Comment est-ce qu'émerge la conscience ? Est-ce qu'on a du libre arbitre ? C'est quoi le lien entre émotion et rationalité ? Est-ce qu'ils sont en opposition ? Comment est-ce qu'on prend une décision ? Comment est-ce qu'on change d'avis ? Sujet très difficile. Et évidemment que j'essaie de m'améliorer pour essayer d'apporter une toute petite brique à l'édifice qu'on appelle la science ou la connaissance humaine. J'essaye pas d'être la meilleure version de moi sur ce point, c'est-à-dire je vais pas me réveiller et aller au labo et rien faire d'autre tous les jours de manière quasi obsessionnelle, parce que c'est pas moi. Encore une fois, quelqu'un qui le fait, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est si cette personne qui le fait dit, si tous les chercheurs ne font pas ça, c'est qu'ils sont pas en train de faire l'effort, donc c'est de mauvaises personnes, parce que c'est de leur faute, parce qu'ils sont pas en train de le faire assez. Donc encore une fois, il y a une différence entre l'individu et l'injonction générale. Donc j'essaye de m'améliorer, mais je m'acharne pas dessus. Ça, c'est sûr. Mais c'est une très bonne question de pourquoi est-ce que je fais les choses. Et la réponse va être un peu bizarre, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais chacun a sa philosophie un peu de vie. Moi, ma philosophie de vie, genre, je me réveille. Je ne peux pas dormir tout le temps. Je me réveille. Il faut que je fasse des choses. Autant faire des choses qui ne sont pas trop désagréables et qui, de préférence, m'intéressent. Donc, je fais les choses parce que, de toute façon, il faut que je fasse des choses. Et donc, je choisis les choses qui me plaisent, qui m'amusent, qui sont cool. Je sais pas si tu connais le shogi, c'est un emoji qui fait comme ça.
Oui.
Je l'ai tatoué.
Ah ouais.
Pour moi, c'est.
Ok.
Et pour moi, c'est ça, c'est genre. Ok.
C'est très nonchalant.
Oui. Genre, c'est oisif, j'aime bien l'oisiveté. Oui, on peut dire que c'est nonchalant. Mais c'est une nonchalance par rapport à moi. Je suis jamais nonchalant avec des personnes qui viennent être en consulte. Je suis jamais nonchalant quand je suis en train de faire une conf. Je suis pas nonchalant dans ce que je suis en train de dire maintenant. C'est une attitude entre Albert et Albert. Tu es pas tellement important, en fait. Ça, c'est un autre truc de My Better Self. C'est genre, you're special, you're important. J'y crois pas. Non, je suis pas particulièrement important, je suis pas particulièrement spécial. La majorité d'entre nous, on est moyen. C'est la définition de la moyenne. C'est très très bien. C'est très 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 bien. J'ai pas particulièrement envie d'être autre chose. Parce que c'est encore une fois une philosophie de vie. Pour moi, à un moment, j'ai capté qu'on va tous mourir. Et du coup, la vie va passer, je vais mourir à un moment. Je veux juste la traverser en me prenant le moins la tête possible et en causant le moins de souffrance autour de moi.
Donc tu dis que la vie n'a pas de sens, mais tu viens de lui donner un sens.
La vie n'a pas de sens, ça ne veut pas dire que la vie a un sens négatif, ça ne veut pas dire que la vie a un sens positif. La vie n'a pas de sens, c'est qu'il n'y a pas un sens inhérent à la vie extérieure à moi, et du coup, chacun d'entre nous est en train de lui donner un sens. Donc oui, moi je lui donne ce sens, mais encore une fois, mon sens...
n'est pas universel.
Le danger, c'est quand je commence à dire, j'ouvre demain un podcast et je dis « my oisif self », je dis à tout le monde, en fait, il faut que vous soyez tous flemmards, il faut que vous soyez tous vous en foutiez du temps qui passe, que vous ne devrez pas vous prendre au sérieux. Non, je rencontre quelqu'un qui se prend hyper au sérieux, qui me dit, moi, en fait, je vais écraser tout le monde. C'est ça le but de ma vie. Je le respecte. Peut-être qu'on va pas être d'accord, peut-être que je vais le combattre s'il devient, je sais pas, quelqu'un dans la vie publique. Mais la vie n'a pas de sens, donc chacun peut créer le sens qu'il veut.
Par rapport à ce que tu viens de dire sur la personne avec qui tu serais pas d'accord et qui t'échangerait, tu l'as dit un peu plus tôt que tu pouvais refuser une interview sur un média si jamais ils reçoivent des personnes qui, à ton sens, ne devraient pas avoir de plateforme. Ouais. Qui sont ces personnes-là et pourquoi on ne devrait pas leur donner la parole ? Est-ce que le propre de la démocratie, et je me fais l'avocat du diable parce que je pense pareil, mais est-ce que le propre de la démocratie, ce n'est pas de donner la parole à tout le monde ?
Non. Le propre de la démocratie, c'est pas d'empêcher la parole des gens, pas de donner la parole. C'est-à-dire, moi, demain, j'ai un podcast, c'est pas du tout antidémocratique si je dis, moi, je reçois pas des gens de l'extrême droite, par exemple.
Oui. Mmh.
Parce qu'ils ont ces news, ils ont des tonnes d'autres plateformes, où ils ont pas besoin de moi, j'ai pas besoin de donner encore plus de plateformes. Donc, le propre de la démocratie, et ça, je pense, c'est un truc qu'on confond tout le temps. La liberté d'expression, c'est pas la garantie d'avoir une plateforme pour avoir la liberté d'expression. C'est-à-dire, tu peux exprimer ce que tu veux, on peut pas te mettre en taule, on peut pas t'interdire, mais on n'est pas obligé
de te donner la parole.
De te donner la parole. Tu te fais déplatformer de YouTube, c'est pas de la censure. Tu peux aller ouvrir ta propre chaîne. Si tu arrives pas à créer un site comme YouTube, bah désolé pour toi. Mais c'est-à-dire que tes idées ne font pas tellement écho. Mais si YouTube commence à donner, et c'est leur droit aussi, hein, si YouTube décide de devenir une plateforme, je sais pas, d'extrême droite, j'irai pas à YouTube, c'est mon choix. Mais la liberté d'expression, c'est pas l'obligation d'avoir une plateforme. Et surtout, c'est pas une liberté. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de la conséquence de ton expression. C'est-à-dire, si quelqu'un va et dit quelque chose d'hyper, je sais pas, d'hyper raciste, on décide que nous, on veut boycotter cette personne, c'est aussi notre prérogative. Tu as le droit de dire ce que tu veux, j'ai le droit de penser que c'est pourri. Et donc, je veux pas être avec toi. Tout le monde parle de la cancel culture, machin. Mais en fait, c'est juste un mot qui existe déjà, ça s'appelle du boycott. Quand quelqu'un se fait canceler, ça veut rien dire. La personne est juste en train de se faire boycotter parce que des humains, et c'est leur droit aussi, estime que ce que cette personne représente, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas support. Une personne qui se fait canceler, elle n'a aucune conséquence juridique. Ce n'est pas un terme juridique. Donc si moi, demain, je suis un neuroscientifique, je dis quelque chose d'hyper homophobe, et les gens me disent, en fait, on ne veut plus t'inviter parce que tu es homophobe, je ne suis pas en train de me faire cancel, dans le sens où les flics arrivent chez moi et on me dit, c'est juste, les gens n'ont plus envie d'être associés avec moi. Et ils ont entièrement leurs droits. Après, on peut débattre de quel est le threshold,
le curseur.
Où est le curseur, à partir de quel moment je me dis, ok, moi je veux plus m'associer à cette personne. Et on pourrait dire qu'il y a certaines personnes qui ont un curseur très très bas, genre à n'importe quelle mini déviation, on fait une campagne de boycott. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce truc de, on va cancel, ça s'appelle le boycott, ça existe, c'est un droit aussi qui est démocratique, de dire, moi, cette enseigne est en train, je sais pas, d'embaucher des enfants à l'autre bout de la terre, je veux pas acheter, je suis pas en train de la cancel. Elle a le droit de faire ça. Je pense qu'elle ne devrait pas avoir le droit, mais dans le monde d'aujourd'hui...
D'ailleurs, ouais, c'est pas tellement légal. Ouais.
Non, mais voilà. Et moi, j'ai le droit de dire, en fait, je ne veux pas être associé avec toi. Donc oui, moi, des plateformes qui reçoivent des gens d'extrême droite, je n'ai pas envie d'être avec eux. Des gens qui reçoivent des personnes qui poussent des soins, par exemple, qui, on sait, non seulement ne marchent pas, mais empirent la qualité de soins qu'une personne pourrait recevoir, je n'ai pas envie d'être associé avec vous. Ça ne veut pas dire que je vais... défendre des positions autres, ou que je vais juste aller chez des gens qui pensent comme moi. Mais il y a certaines choses où je me dis, inviter quelqu'un d'autre. Et de la même manière, si moi j'ai une plateforme, je vais pas inviter tout le monde. Parce que je pense qu'ils ont assez d'écho en société et que j'ai pas envie de les inviter.
Ouais. C'est hyper intéressant, c'est un peu le sujet d'une vidéo que j'ai sortie hier où je réfléchis à ça. Et j'en suis arrivée à la conclusion, en effet, que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tous un curseur différent sur ce qu'on tolère ou non, mais qu'on part du principe que notre curseur est le bon, est le juste curseur. Et donc, en effet, si je suis la première à dénoncer notamment des enseignes de fast fashion qui exploitent des travailleurs, et ça me semble normal de le faire, mais à l'inverse, je le prends extrêmement personnellement quand des personnes vont... m'accuser de ne pas être vraiment engagée pour la planète parce que je ne suis pas végétarienne. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était juste mon curseur et que les personnes qui m'accusaient de ne pas être parfaite, c'est leur curseur. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que du coup, le fait de ne pas avoir le même curseur est une forme de justification au boycott. Alors qu'on pourrait juste dire, on n'a pas le même curseur, c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, nous, de notre conversation, on n'a pas exactement le même curseur. C'est pas grave, je peux quand même te parler, je peux quand même te recevoir, tu vois. Et c'est un peu aujourd'hui le problème que j'ai avec la faculté à condamner extrêmement rapide, c'est qu'on oublie, il n'y a plus de droit à l'erreur, il n'y a plus de seconde chance, il n'y a plus juste de réflexion. Et on a le droit de débattre, et ce qu'on dit n'est pas forcément parfait, ça ne veut pas dire qu'on doit condamner les personnes qui le disent.
En fait, tu as répondu à ça au début, ça dépend du curseur. Il y a chez chacun ce qu'on appelle des valeurs sacrées. Ça n'a rien à voir avec la religion, les valeurs sacrées, c'est des choses qui sont genre des no-no pour nous. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes pour qui les valeurs sacrées sont très très larges. Alors qu'en général, c'est un truc hyper restreint. Par exemple, je ne sais pas, pour faire un truc hyper simple, je sais pas, la pédophilie, c'est une valeur sacrée. Genre, je ne peux pas jamais inviter une personne pédophile, jamais acheter d'un business pédophile, etc.
Pédocriminel, si on veut être woke.
Pédocriminel. Oui, il y a des personnes aujourd'hui qui ont une sorte de valeur sacrée sur plein de sujets. Mais aussi, il faut se rappeler que c'est des pourcentages, c'est-à-dire il y a tout le temps une sorte de call qui est radical sur n'importe quel sujet, que ce soit le végétarianisme, véganisme ou l'antispécisme. Donc il y a des personnes qui sont antispécistes qui vont être plus radicales que d'autres. Il y a des personnes qui sont contre la fast fashion, mais qui se disent, bon, j'ai vu, je sais pas, des chaussures Nike qui sont vraiment cool, ou j'ai vu un truc sur Shane, je sais pas comment ça s'appelle, Shane.
On n'a même pas besoin de le savoir parce que ça vaut pas la peine, la peine de les mentionner.
Très bien, eux, je me dis, bon, ce truc, genre, j'ai vraiment flashé, je l'ai acheté une fois. Alors que pour quelqu'un d'autre, c'est genre, quoi, tu as acheté une fois sur ce site, c'est genre, c'est complètement dément que tu fasses ça, alors que moi, je suis engagé quotidiennement pour les interdire de la vente. Parce que ce qu'ils font n'est pas éthique. Donc c'est normal. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on a tous une plateforme. Et donc, on peut tous faire plus de bouquins. Mais pour moi, ça, c'est sain. Moi, je n'ai pas de problème avec ce truc dans la société actuelle. Tout le monde dit, ah, c'est en train de machin. Je pense déjà, qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves. Mais ça, c'est un mauvais argument. Mais surtout, deux, on vient tous d'avoir des plateformes. Et on est encore en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va en faire. Donc là aussi, on parle tous du droit à l'échec. Ben, il faut aussi le droit à l'échec de ne pas comprendre comment utiliser nos outils technologiques encore et d'attendre. Ça fait même pas 10-15 ans qu'il y a les réseaux sociaux. D'attendre qu'on se donne encore 10-15 ans. Et puis, ça va se tasser, je pense. Mais ça va se tasser d'un côté ou de l'autre. Mais on est encore en train d'essayer de comprendre. On a soudainement tous une voix. Alors, ce qu'on est en train de faire maintenant, il y a 15 ans, c'était pas possible. C'était soit je passe à la télé, soit je passe à la radio. C'est fini. C'est fini. Et donc, oui, on ne sait pas encore comment utiliser ces outils. Chacun peut s'exprimer, chacun peut exprimer son curseur. Le curseur n'est plus quelque chose de descendant d'une sorte d'autorité. Et limite, c'est sain, le temps de voir qu'est-ce qu'on va en faire. Comme ça, on découvre toute la variabilité qu'il y a. Mais je peux comprendre que si quelqu'un est antispéciste, donc pour lui, un autre animal, quelqu'un de vivant comme un humain, bah, elle ne peut pas supporter que quelqu'un soit en train de manger un autre individu devant elle. Je le comprends. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut forcer tous les autres à faire la même chose? Non, et surtout, ils ne le font pas. Donc, on peut descendre maintenant après et manger un burger. Mais c'est juste que aussi, je pense qu'on s'offusque très vite. Genre, tout le monde traite les autres d'être fragiles et tout le monde traite les autres d'être victimisants. Alors que c'est juste des valeurs différentes et des combats différents. Et au final, pour moi, c'est ça la politique. La politique, c'est l'organisation d'un groupe d'humains et chacun défend ses valeurs. Chacun décide où il veut aller ou pas. Et donc moi, oui, par défaut, je dis oui, sauf quand j'ai une raison de dire non. Et dire non, c'est par exemple, oui, j'irai pas dans des médias d'extrême droite, même si l'extrême droite fait genre non, mais nous, c'est pas très grave, machin. Et je suis d'accord que quelqu'un qui regarde ce truc dit, ah, lui, c'est un bien-pensant, machin. J'ai aucun problème, oui, je suis un bien-pensant, j'aime bien le politiquement correct, je vois pas pourquoi on voudrait être un faux-pensant ou un mal-pensant. Je comprends pas pourquoi on voudrait être incorrect. Donc c'est des trucs que j'assume depuis très longtemps, j'ai pas de problème.
T'as jamais peur de déplaire?
J'ai très peur de déplaire les gens que j'aime bien. Mais je peux pas vivre dans une drogue de déplaire tout le monde, quoi. Si un de mes potes me dit « Putain, tu m'as vraiment déçu » ou une de mes amies me dit « C'était vraiment pas cool ce que tu as fait », je peux culpabiliser pendant 10 mois dessus. Et ça me trotte dans la tête et je suis en train de faire autre chose et bim, j'ai un flash. Je suis très facilement chantable.
Chantable?
On peut me chanter très facilement.
Ah oui, genre, d'accord.
Un chantage émotionnel, je suis vraiment nul à ça, avec les gens que j'aime bien. Mais non, genre si quelqu'un dit « Ah oui, lui, je sais pas, c'est un woke.
» Tu t'en fous.
Oui.
En parlant de chantage émotionnel, je sais plus si c'était dans un article aussi que j'ai lu de toi où tu parlais de gaslighting et un peu de manipulation. Et je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, j'en ai jamais parlé dans un épisode, mais c'est malheureusement encore trop fréquent. Comment est-ce qu'une personne en couple pourrait se prémunir de ça, ou le cas échéant, si ça lui arrive, s'en rendre compte, tu vois, prendre conscience qu'on est en train de se faire manipuler, tu vois, par un pervers narcissique, par exemple. Enfin, vu que j'ai l'impression que ça repose un peu sur des mécanismes psychiques. Est-ce que tu as des billes à nous apporter là-dessus?
Les autres, tes potes.
Ouais.
C'est
les écouter.
Ouais, c'est très, très difficile. En fait, par exemple, je travaille sur la désinformation en ligne. Je suis membre du panel d'experts du CSA, maintenant l'ARCOM, pour la lutte contre la désinformation en ligne. Et donc, on a beaucoup pensé à comment apprendre aux gens l'éducation aux médias, vérifier les sources, s'assurer qu'il y a plusieurs sources, etc. Et on a des outils, on a des billes, comme tu dis. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est qui va me protéger de moi. Quand la source des fake news, c'est mon propre cerveau. Par exemple, quand mon cerveau est en train de me convaincre que cette personne est bonne pour moi, alors que clairement, cette personne est abusive et... mal intentionné, me fait douter de ma propre mémoire, comme c'est le cas dans le gaslighting, etc. Et on ne peut pas penser par soi-même. Une des plus fausses conceptions que j'entends sur le raisonnement critique, c'est « pense par toi-même, fais tes propres recherches ». On est des animaux sociaux. Il faut apprendre à penser contre son cerveau et le cerveau des autres. Et donc c'est très important d'avoir dans son entourage des gens de confiance, des gens que je sais sont bienveillants pour moi. Et si moi, j'ai des signaux qui viennent de moi, parce que souvent quand on est dans des relations comme ça, on n'est pas très à l'aise, mais on rationalise. On trouve des excuses, on pardonne, il était fatigué, il passe par une période de stress, il a mal, il a machin. Si j'ai des gens qui sont importants pour moi, que je sais ont mes meilleurs
intérêts
à cœur, etc., et qu'ils me disent, qu'elles me disent tout que ce que je suis en train de faire est mauvais pour moi, je devrais avoir une sorte d'humilité de me dire je vais les écouter au-dessus de ce que moi je suis en train de me dire. D'apprendre à, ça s'appelle de la conformité informationnelle, d'apprendre à me conformer à l'opinion de ces gens qui sont avec moi depuis très très longtemps, qui sont en train de me dire que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien pour moi, alors que je le sens un peu, parce que ce n'est pas possible de s'en rendre compte seul. C'est hyper compliqué. Je ne dirais pas que ce n'est pas possible, mais c'est hyper compliqué, on n'a pas une méthode magique. Et pour moi, cette dimension sociale de la cognition humaine, des relations sociales, des relations amicales, des relations familiales, quand on a la chance de tomber sur une famille, parce que la différence entre la famille et les amis, et tout le monde la connaît, c'est qu'on ne choisit pas notre famille, on choisit nos amis. La chance d'avoir choisi des amis qui sont cool, qui sont bienveillants, qui m'aiment bien, même si parfois certains sont, peuvent être toxiques, mais c'est pas quand même, je pense que c'est le plus gros facteur de protection qu'on peut avoir dans la vie.
Ok, mais ça demande à faire passer la raison au-dessus de l'émotion.
Bah, je suis élevé une conf hier. Le matin, tu aurais dû venir.
Ah, sur j'aurais dû, mais je n'étais pas au courant.
Sur les émotions et les raisons, parce qu'ils ne sont pas en opposition.
D'accord.
Nos émotions. En fait, il faut penser plutôt, c'est court, ça prend 2 heures, mais je vais faire la version condensée. C'est tout le temps une dyade émotion, raison, motivation, contre une autre dyade émotion, raison, motivation. C'est rarement, il n'y a quasiment jamais une émotion qui est en opposition à une raison. Chaque émotion est tout le temps accompagnée d'un raisonnement et d'une motivation. Et chaque autre émotion, par exemple, je suis dans une relation qui est mauvaise pour moi, mes émotions sont plutôt négatives, mon cerveau me dit non mais comment est-ce qu'il a pu faire ça, et ma motivation, j'ai envie que ça s'arrête et je veux partir. Et il y a une autre triade ou dyade, une émotion qui me dit je sais pas mais je l'aime, un raisonnement qui dit mais il était fatigué, il voulait pas vraiment m'insulter ou il veut pas vraiment me taper ou je sais pas quoi, une motivation, j'ai envie de rester parce que je pense que si je mets assez d'efforts, ce truc va marcher. C'est tout le temps cette opposition. Et donc oui, c'est de mettre de côté parfois la dyade qui est plus forte, qui est le choix par défaut, qui est de rester. C'est tout le temps plus difficile de partir. Et donc oui, ça nécessite cette sorte d'humilité entre soi et soi-même, de se dire en fait, si j'ai 4, 5, 6 potes qui ne se connaissent pas, qui sont en train de me dire que je fais n'importe quoi, peut-être que je ne devrais pas m'écouter, que je devrais les écouter à eux.
Est-ce que ce que tu nous partages sur cette dyade raison-émotion implique que la raison peut avoir une influence sur l'émotion? Parce que autant on sait que l'inverse est vrai, on dit, tu sais, l'amour en aveugle, enfin voilà, le fait d'aimer quelqu'un, ça peut nous faire faire des choses parfois qui n'ont pas vraiment de rationalité. À l'inverse, parfois je trouve ça difficile que la raison influe sur l'émotion qu'on ressent. Donc, par exemple, j'ai pas mal moi de culpabilité quand je fais pas les choses comme je pense que j'aurais dû les faire. Et tu vois, j'ai beau essayer de rationaliser la chose, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose à l'émotion que je ressens, qui est genre, j'ai merdé, je suis nul.
Ouais, mais tu vois, j'ai merdé, je suis nul, etc. C'est de la pensée, c'est pas l'affect.
Ok.
Donc ton affect de boule au ventre, etc. est accompagné de pensées de je suis nul, je vais pas réussir, je sais pas, il y a des gens qui dépendent de moi et je suis en train de les laisser tomber. Ça, c'est une raison. Donc déjà, dans comment tu en parles. Et l'autre côté, c'est il faut plus que je me mette la pression, etc., etc. Et l'émotion qui va venir avec, c'est par exemple je vais relâcher mon corps, ne plus avoir la boule au ventre, etc., etc. Donc oui, bien sûr que l'émotion peut plus facilement, on va dire, impacter le contenu de nos pensées, parce que l'émotion a quand même cette dimension un peu automatique. Mais bien sûr que des pensées peuvent affecter les émotions. Je te donne un exemple très simple. Tu es assis chez toi, tu commences à penser à un événement un peu douloureux dans ton passé, tu commences à pleurer. C'est ta cognition, le fait que tu commences à penser à ce truc, qui a déclenché l'émotion. Donc ça marche dans les deux sens, mais c'est sûr que l'émotion est en plus automatique, j'ai envie de dire. plus facilement, influe plus facilement. Mmh. Mais tout le temps, quand tu as une émotion, tu as un set de pensées qui lui est associé. Et tout le temps, quand tu as un set de pensées, tu as potentiellement une émotion, même si c'est l'émotion, c'est une émotion neutre, c'est une émotion quand même. Donc, si je ne sais pas, à la fin du podcast, je vais aller quelque part et je peux être en train de me réfléchir à « Tiens, comment est-ce que j'étais ? Peut-être que j'aurais dû dire ça mieux, etc. » Ces pensées vont créer des émotions en moi.
Est-ce que ça veut dire que la pensée positive a une réelle efficacité ? Parce que je trouve ça assez... je trouve que c'est aussi une autre forme d'injonction de nous inciter à penser positif quand parfois tout ce dont on a besoin, c'est au final d'extérioriser la négativité. Mais d'un autre côté, si j'entends ce que tu dis, ça, je comprends d'où ça vient, parce que si jamais le fait de penser positif peut nous permettre de dépasser une émotion négative, c'est utile.
En fait, ça dépend de qu'est-ce que je suis en train de positiver. Il y a une sorte de point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une sorte de outlook positif dans la vie pour pouvoir démarrer. Mm-hmm. Mais à un moment, juste positiver, quand c'est contre les faits, ça a ce qu'on appelle un backfire effect et ça devient plutôt très très négatif. Par exemple, je sais pas, si on reprend l'exemple d'une relation malsaine, je suis dans une relation malsaine et je positivise, je suis juste en train de perpétuer
mon malheur.
Mon malheur. Mmh. C'est pas parce que je me dis, ah non, il m'aime, mais il m'a foutu un coup hier parce qu'il était fatigué, qu'il va arrêter et que soudainement il va commencer à être sympa avec moi. Et surtout, c'est important de pouvoir exprimer les émotions négatives. C'est-à-dire, les émotions négatives ont une fonction et on ne peut pas juste dire d'interdire les affects négatifs. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui sont tout le temps en mode self-love, machin, machin, machin. Il se trouve que je suis psy et quand on est en séance, c'est juste une façade. Et ce que je leur explique, c'est que cette façade te fait beaucoup plus de mal que ce que tu imagines. Parce que tu es en train de te couper en deux. Tu es en train de créer quelque chose qui n'est pas toi et donc tu es tout le temps en train de te comparer à ce toi qui est meilleur que toi dans le réel et donc de nourrir cette frustration d'idéalisation qu'on montre aux autres alors qu'intérieurement on sait que c'est pas le cas.
Quand les personnes se partagent sur les réseaux, tu veux dire ?
Oui, ou sur les réseaux, ou parce devant les gens, ouais. Ou en soirée, ou n'importe où. Personne n'a le droit d'aller mal, quoi.
Oui, c'est sûr, mais pour avoir des témoignages de personnes qui me suivent, tu vois, depuis plusieurs années, ouais. Je sais que le fait de parler d'amour de soi, d'acceptation de soi, de faire réfléchir autour de ça, ça a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bah, merci. En fait, de par voilà, ce que tu as partagé, j'ai pu travailler là-dessus.
Il y a une différence entre tu parles de l'amour de soi et tu montres une image de toi comme si tout va bien tout le temps,
oui,
parfaite, etc.
Oui, non, l'image de perfection ne sert personne. Ouais.
Évidemment qu'il faut s'apprécier. Mais il y a une différence entre la pensée positive, donc tout ce qui m'arrive, je dois tout le temps le transformer en un truc positif. Et croire que j'ai de la valeur, c'est-à-dire il faut avoir une bonne estime de soi, c'est préférable, il n'y a pas de...
Mais c'est difficile. Enfin, oui, pour moi, c'est aujourd'hui...
Parce qu'il y a tellement de pression.
Et c'est... Est-ce que tu...
C'est pas supposé être si difficile que ça, en fait. Je pense que c'est difficile parce qu'on se met tous une barre incroyablement haute, et donc on est tout le temps en train de galérer à la voir, on est déçu, on est frustré, et la barre est là, et puis là, puis là, puis là.
Et parce qu'on l'a fait dépendre de facteurs qui ne dépendent pas forcément de nous.
Enfin, oui, de toute façon, c'est pas possible de faire que ça dépend juste de moi, parce qu'on vit en société, etc. Mais oui, la balance n'est pas top, quoi.
Est-ce que tu vois une différence là-dessus, dans les patients que tu reçois, pour les femmes et pour les hommes ?
Oui, bien sûr. Déjà, parce que la société est patriarcale. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup plus d'injonctions sur les femmes, notamment sur le physique, sur l'humeur. Déjà, les femmes ont une sorte de réputation d'être plus émotionnelles, d'être plus hystériques. Donc, dans un milieu de travail, on sait qu'une même remarque... Genre, j'ai vu une vidéo hier de deux joueurs de foot. Donc, un joueur... c'est pas des joueurs, c'est des anciens joueurs de foot. Et un ancien joueur, une ancienne joueuse, qui se sont échangés leur compte Twitter. Juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et donc lui, il était en train de tweeter de son compte à elle, et elle tweetait de son compte à lui. Les deux sont analystes de foot. Et lui, il recevait des messages, tu aurais dû plus rester à la cuisine, ça se voit que tu comprends rien en foot, machin, machin, machin. Et elle recevait des messages, top analyse, c'est incroyable, on voit là l'expert, machin, merci d'être là. Alors que c'est elle qui est en train... Et donc oui, bien sûr qu'il y a des différences, pas qu'ils sont intrinsèques aux hommes ou aux femmes nécessairement, mais l'image qu'on renvoie, et encore une fois, on est des animaux sociaux, donc oui, il y a beaucoup plus de pression au travail, beaucoup plus d'injonctions à la beauté, de manque d'émotions. ce qui parfois paradoxalement rend des femmes plus sévères entre guillemets, parce qu'elles veulent prouver plus qu'elles, elles sont pas des êtres émotionnels.
Est-ce que ce mythe des femmes qui sont hystériques ou qui sont beaucoup plus émotionnelles a une véracité scientifique?
Bon, on peut pas savoir, parce que vu qu'on vit dans une société patriarcale, on sait pas si les femmes sont plus émotionnelles pour des raisons inhérentes à elles, ou c'est parce qu'on leur a assigné ce rôle, et donc elles deviennent. Ouais. Après, il y a des différences biologiques dans les systèmes hormonaux, parce que... mais on sait pas c'est quoi le pourcentage, ouais, le poids, etc. Genre.
Et qu'est-ce qui est social et qu'est-ce qui est biologique? Et pour le cerveau, parce qu'il y a encore des personnes qui le prétendent, hein, mais donc, est-ce qu'il y a une différence structurelle entre un cerveau féminin et un cerveau masculin?
Alors, le mot technique qu'on utilise s'appelle le dimorphisme. Par exemple, les organes génitaux sont dimorphiques. Ils ne sont pas du tout les mêmes entre une personne de sexe masculin et une personne de sexe féminin. Le cerveau, on ne le considère pas comme un organe dimorphique. On considère que c'est un organe qui n'est pas dimorphique. Et en ce moment, il y a un débat énorme, parce que aussi, c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Donc, il y a une méta-analyse énorme qui est sortie, qui dit non. Il y a des gens qui ont répondu, d'autres chercheurs qui ont répondu, oui, mais vous n'avez pas très bien traité les données. S'il y a un dimorphisme, il est minime. Et il ne peut pas expliquer les différences qu'on voit dans la société. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ce dimorphisme n'existe pas, que c'est une sorte de mini-artefact, parce que nos IRM ne sont pas encore top, des problèmes de résolution, etc. Mais même ceux que je connais qui, eux, défendent l'opinion
inverse
disent que de toute façon ça ne peut pas expliquer l'écart énorme qu'on voit dans l'expression sociétale entre les hommes et les femmes.
Ok, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, on en a un peu parlé, hein, mais c'est de l'oisiveté. Dans ton travail, tu fais presque l'apologie de ne rien faire.
Ouais.
Et au-delà du fait que, tu vois, en effet, hein, je le comprends de ta personne, c'est... ça permet déjà de vivre de manière plus sereine et plus tranquille. Est-ce qu'il y a des bienfaits à ne rien faire pour le cerveau?
C'est une sorte de question qui retourne sur elle-même, parce que du coup, on est en train de trouver une utilité dans un truc qui, par définition, ne devrait pas l'être. Mais pour répondre à ta question, oui, ça a une utilité. Notre cerveau a besoin de rêvasser, besoin qu'on le laisse tranquille. Genre, il y a des trucs relativement bénéfiques qui se passent. Mais si vous voulez vous mettre à rien faire, ne le faites pas, parce que ça a des bénéfices. Parce que ça ne marche plus, du coup, automatiquement. Genre, on appelle ça les comportements tournés vers la performance. Et ça ne dépend pas de l'activité. Par exemple, je peux jouer de la guitare et être prêt de prendre plaisir, et je peux jouer de la guitare en mettant une pression parce que je veux devenir le meilleur guitariste au monde. C'est plus une question d'attitude. Si je rentre chez moi et je me dis, ah, j'ai entendu Albert Mukeber, neuroscientifique, qui dit ne rien faire, je sais pas, ça active le réseau de défaut, par défaut du cerveau, et donc ça va m'aider. Donc je me dis, je vais rien faire, je m'assois là, et je commence à penser, est-ce que mon DMN est activé, est-ce que mon DMN, ça va pas le faire. Il faut vraiment, et c'est une sorte de serpent qui se mord sa propre queue, ce truc de mélioration, parce que c'est tellement présent dans notre époque qu'on a du mal même à comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose qui n'a pas d'utilité.
Mais est-ce que le plaisir n'est pas une forme d'utilité? Parce qu'en effet, à chaque fois, tu me chopes là-dessus, et je me rends compte que moi, j'ai peut-être un mode par défaut là-dessus, mais en fait, pour moi, le plaisir est une utilité en soi.
Oui, mais aussi l'état de « je ne suis pas en déplaisir et je ne suis pas en train de prendre plaisir » n'est pas si désagréable que ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire « je vais aller me faire du mal ». Quoique, il y a beaucoup de gens qui se font du mal dans cette vision améliorative. Genre, des restrictions alimentaires, je ne mange pas des glaces alors que j'aime ça. Ouais, j'ai des crampes, je me casse, machin. Ce n'est pas hyper plaisant.
Non.
On le fait quand même pour la vision améliorative. Donc moi, je suis en train de te dire, sortez un peu de cette vision améliorative, et d'un point de vue phénoménologique, genre la phénoménologie, c'est comment je vis les choses, ce n'est pas si désagréable.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus grave si on n'aime pas ne rien faire.
Non, c'est pas
grave. Parce qu'il y a presque aujourd'hui l'injonction inverse où ça me prend la tête, des gens qui disent c'est important de s'ennuyer. Tu vois, du coup, j'ai l'impression de peut-être, je sais pas, je suis pas en train de réinitialiser mon cerveau comme il faut. Mais parce qu'il fait pas assez rien, tu vois.
Tu es encore en train de penser à quelle est l'utilité du truc. Moi, et encore une fois, moi, je suis pas du tout en train de dire à personne, je sais pas, les caméras sont où, à personne. De ne rien faire ou d'être oisif. Je suis en train de dire, moi, je suis comme ça parce qu'on m'a posé la question. En général, je ne suis même pas intéressé particulièrement à parler de moi, mais c'est un peu le format aussi de la conversation qu'on est en train d'avoir. Mais tout ce que je dis, c'est que si vous ne faites rien, un, ce n'est pas grave, et deux, juste ne suivez pas, ne rentrez pas dans la roue hédoniste, parce qu'il le faut. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la manière dont on présente la vie aujourd'hui, c'est que par défaut, on devrait tous être en train de maximiser le plaisir, d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'être mélioratif, de demander à quoi ça sert, de ne faire que des trucs qui servent à quelque chose, qui nous aident à progresser dans la vie, à aller de l'avant, à monter, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est juste un truc très simple, c'est que cette vision de la vie n'est pas quelque chose d'universel, elle n'a pas toujours existé au cours de l'humanité, il y a des tonnes de courants philosophiques hyper intéressants qui proposent des visions de la vie qui sont différentes. Essayez juste de vous y intéresser. Si ce mode est en train de vous causer de la souffrance, si vous n'êtes pas bien, si le soir, parfois vous pleurez pour aucune raison, si vous vous retrouvez isolé socialement pour suivre votre rêve, pour devenir la meilleure, etc., juste sachez qu'il y a une sorte d'illusion cognitive qui a lieu aujourd'hui dans le monde où on pense que la société et l'espèce humaine s'est toujours organisée comme ça, que ça a toujours été une question de qui a le plus d'argent, de qui est le plus beau, de qui est le plus riche, de qui peut être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pas vrai, il y a d'autres courants philosophiques. Il se trouve que moi, celui que moi je suis, c'est un courant plus relaxé sur le rapport des angoisses existentielles de la vie. Mais il y en a des tonnes d'autres. Juste intéressez-vous si ça vous parle. Pas au mien, aux différents courants qui existent, parce que d'autres manières de vivre ont existé. Et je trouve dommage qu'on les passe à la trappe. C'est tout.
C'est marrant parce que c'est un peu le... Je fais un parallèle avec la vision que j'ai de l'apparence physique. Et du fait qu'aujourd'hui, je critique le fait qu'il y ait une vraie pression sur l'image, sur ce qu'on renvoie, et qu'en fait, ça ne tient qu'à nous presque en fait, de se détacher de ce regard-là et d'arrêter d'essayer de performer un genre pour satisfaire la société. Mais ce qui est vrai, et ce que j'ai jamais réfuté, c'est que ça reste plus simple dans notre société actuelle d'être perçu comme beau. Et que ça reste presque même un privilège de pouvoir se dire, en fait, moi, je m'en fous de mon apparence, jamais je me coiffe pas, etc. Et donc, je comprends les personnes qui peuvent m'opposer cet argument. Et à l'inverse, dans ce que tu me partages, vu que peut-être moi, j'ai pas encore, ou je le ferai jamais, mais cette vision de la vie comme étant, du coup, un peu comme par rapport au physique, très détaché de, en fait, je m'en détache, je fais ça pas pour les autres, je le fais pour moi. Et en fait, peu importe si je suis la meilleure ou pas, ça reste plus facile dans notre société de jouer ce jeu-là, de performer, tout simplement. Et en fait, j'ai l'impression que ça peut quand même nous rendre plus heureux, même si c'est pas forcément un discours que j'ai envie d'avoir. J'aimerais pouvoir me satisfaire de peu et puis pas chercher à avoir tel ou tel accomplissement. Mais le fait est que, personnellement, ce que j'ai accompli jusqu'ici, cette recherche d'amélioration m'a ouvert des portes, m'a donné des opportunités qui aujourd'hui me laissent tout simplement le choix. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être la meilleure, mais c'est d'avoir le choix. Et oui, je n'aurais pas pu avoir ce choix si je n'avais pas performé ce que la société attendait de moi.
Oui, et encore une fois, le cas particulier, tant mieux si ça a marché pour toi. Maintenant, imagine que tu avais fait tout ça et que tu n'avais pas eu le choix. Et tu aurais continué. Ça aurait été quelque chose d'assez délétère pour toi. Alors que si peut-être tu avais, je sais pas, tu avais essayé, ça n'avait pas marché, tu t'es dit, bon, c'est pas en train de marcher, c'est pas très grave. Tu as été employé dans une boîte, tu as ton boulot de 9h à 17h, tu as des potes de travail hyper cool, tu rentres chez toi, tu as le temps d'aller voir des gens, de rester à la maison, de rien faire, de regarder la télé, etc. Si ça se trouve, dans cet univers parallèle, si je vais faire une grille de satisfaction de vie, cette autre toi, peut-être qu'elle aurait été aussi satisfaite que la toi d'aujourd'hui. Peut-être moins, peut-être plus. On n'en sait rien. Tout ce que je dis, c'est que peut-être c'est le cas, mais où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que c'est exactement le même raisonnement, la pression de réussir et la pression d'être beau. C'est la même chose. Tu as réussi ou tu tends, ou tu as envie de te détacher de la pression d'être beau, mais tu vois pas pourquoi tu devrais te détacher de la pression de réussir. Why not? Tu vois, genre, pourquoi pas? Tant mieux si ça marche pour toi. Encore une fois, pour moi, le problème, c'est l'injonction aux autres. Que ça soit l'injonction d'être beau, soit l'injonction de réussir, de dire quoi? Tu es juste cadre? Tu peux encore CEO? Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu peux être CEO? Et surtout, dans l'organisation sociétale, on peut pas tous être des chefs.
Ouais.
Et on le voit en politique.
Croyez-moi, vous ne le voulez pas forcément.
Voilà. Non, et parfois, moi, tu me dis, il y a une personne qui comprend très bien un sujet que moi qui m'intéresse, tu me dis tu vas être son suiveur. Je dis ok. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ou qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Je vais où elle veut. Et ça, dans ce récit amélioratif, etc., parce que c'est un récit qui est profondément individuel, il n'y a plus de place pour la collaboration, il n'y a plus de place pour... Ok, tu sais quoi, en fait, tu me donnes des ordres, je suis. Moi, je n'ai pas de problème à être un suiveur, du tout, zéro. Je n'ai pas de problème à ne pas être un leader. J'ai un problème avec l'abus d'autorité, bien sûr. J'ai un problème qu'on me donne des ordres et je n'ai pas envie de les faire, bien sûr. Mais je pense que ce truc de tout le monde devrait tout le temps monter au maximum, c'est pas jouable, quoi.
En fait, ça rejoint un peu une forme de philosophie du bonheur qui est d'apprécier le chemin et pas la destination. C'est qu'en fait, tu vois, si j'avais eu une autre vie, que j'avais fourni les mêmes efforts, mais que j'avais pas accompli ce que je voulais accomplir, bah, tant que j'ai pris du plaisir à l'effort, moi, au final, c'est ça qui m'importe. Ouais. Donc c'est un peu faire sans attendre, enfin sans avoir d'attente. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'attentes.
Après, il y a aussi, oui, bien sûr, il n'y a plus trop d'attentes et il y a trop d'objectifs complètement déconnectés du réel. Mais aussi, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'est pour les personnes qui ont le choix.
Ouais.
Parce que si je suis dans une sorte de misère sociale, si je suis, moi, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir venir en France, mon visa aurait pu être refusé,
ouais.
Je serais encore au Liban. Puis c'est tout. Dans un pays effondré, ma famille encore au Liban, etc. Tout ça, c'est déjà un privilège. Mmh. Qu'on puisse être en train de discuter de est-ce que je veux être embauché, est-ce que je veux être un chef, est-ce que je veux être CEO, etc. La majorité des gens, ils trouvent un taf et ils sont obligés de le prendre, sinon ils peuvent pas
manger.
Et eux aussi, ils sont en train d'être endommagés par cette injonction, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et donc, il y a tout le temps quelque chose qui est en train de me rappeler en fait, ta vie est pourrie.
Mmh.
Tous les matins, je me réveille, je vais au taf. Et on me rappelle que ta vie est pourrie. Et donc, c'est aussi de montrer qu'en fait, non, ta vie ne peut pas être juste jugée par les fringues que tu portes, par ce que tu peux acheter, etc. En sachant que, évidemment que dans le monde aujourd'hui, si tu as plus d'argent, ta vie est plus facile. Si tu es plus belle, ta vie est plus facile, si, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés de jouer ce jeu. C'est juste que ce jeu a réussi à créer une sorte d'illusion cognitive, que ça a toujours été comme ça, que c'est juste la continuation normale de l'évolution des humains. Et ça, c'est pas vrai.
Quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre cerveau? T'en parlais un peu, il y a ce côté de comparaison permanente,
ouais,
qui est extrêmement toxique. Est-ce que, de par ton travail en neurosciences et en tant que psy, et les personnes que tu vois, tu as observé tu vois, des enseignements sur comment ça a modifié nos...
Alors, modifier notre cerveau est un peu plus résistant que d'être modifié en 10 ans, donc ça n'a pas vraiment modifié notre cerveau, mais je dirais, tout dépend des usages. Quelles sont les pages que je suis en train de suivre? Combien de temps est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Quelles sont les idées qui me sont associées? Il n'y a pas un truc qui est inhérent, genre les réseaux sociaux, c'est mal. Je peux utiliser les réseaux sociaux pour m'informer sur la philosophie.
Ouais.
Et je peux utiliser les réseaux sociaux pour me rappeler tout le temps que je suis une merde alors que je suis destiné à être quelqu'un de spécial. Et aussi, on voit une sorte d'injonction à l'excellence. Parce que c'est une vie qui est fantasmée, les réseaux sociaux. On n'est pas en train de montrer notre vie comme elle est. Il y a quelques études sur l'estime de soi chez les ados qui montrent que ça peut avoir des effets délétères. Mais le problème principal, pas des réseaux sociaux, mais des téléphones portables, des ordis, des écrans en général, c'est la sédentarité. C'est qu'on ne bouge pas.
D'accord.
Donc on reste tellement de temps assis, et ça c'est très mauvais pour notre corps, pour notre fonctionnement, etc. Il n'y a pas encore d'études qui disent qu'il y a un truc inhérent dans l'objet. C'est juste que ça happe notre attention, et donc un ado ou une ado de 14-15 ans peut passer 6-7 heures entre l'école, puis rentrer à la maison, être sur la console ou sur le téléphone, etc., où on n'est pas en train de bouger notre corps.
Mmh.
Et ça, c'est un problème qui traverse toute la société. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire du sport, il faut aller, c'est une heure dans une salle à bouger son corps, alors qu'il y a 150 ans, c'était complètement absurde parce que ça se faisait naturellement. Il fallait marcher, il fallait porter des trucs, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de voiture. Je pense que c'est la sédentarité, vraiment le problème. Il y a encore quelques études sur l'estime de soi, sur des choses comme ça, notamment chez les jeunes, avec ces injonctions à la beauté. Mais on n'a pas encore assez de recul pour dire que c'est un truc inhérent.
Il n'y a rien sur l'attention. Parce que c'est ce que j'observe le plus, ce réflexe qu'on peut avoir, alors qu'on n'avait pas avant, mais tu vois, je sais pas si toi tu fais un peu, j'imagine, du deep work où tu vas pendant 2-3 heures, tu fais genre un truc, et je me rends compte que j'y arrivais très bien à 15-16 ans, et qu'aujourd'hui, au bout d'une heure, je suis genre, oh, j'ai quand même regardé si j'ai pas reçu genre un message et tout, et moi-même, ça me rend ouf. De j'aimerais bien, c'est une, enfin après c'est le principe de l'addiction j'imagine, hein.
C'est pas de l'addiction parce qu'il n'y a pas les critères de l'addiction, mais c'est sûr qu'il y a des habituations.
Okay.
Il y a une sorte d'habitude de débloquer et de voir, mais il faut pas oublier que cet objet que j'ai dans ma poche a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire je prends mon téléphone, est-ce que je suis en train de regarder ou est-ce que je suis en train de voir si quelqu'un que j'aime bien m'a écrit et je vais lui répondre, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, etc., etc. C'est encore trop tôt pour dire que ça modifie notre attention, mais c'est sûr que ça fragmente parfois l'attention parce que j'ai ces interruptions. Par exemple, moi, quand je suis en train de travailler, je fais des blocs de travail, ça s'appelle la technique de Pomodoro.
Ouais.
Je vais travailler, par exemple, 45 minutes et puis faire une pause de 10 minutes, etc. etc. Souvent, quand on me dit, genre, on a un span d'attention qui est devenu très, très court, je donne tout le temps le même contre-argument. Tout le monde dit, ah, les gens, ils ne peuvent plus se concentrer pendant plus de 5 minutes, pendant plus que 10 minutes à cause des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on explique qu'il passe 6 heures à binge-watcher une série sur Netflix ? D'ailleurs, c'est aussi le truc du contenu, de ce qu'on est en train de faire. Je connais des gens qui ne vont pas se lever pisser parce qu'ils veulent finir la série. Donc non, ce n'est pas notre attention qui est modifiée, c'est les usages. Ouais. Et il faut qu'on voit comment est-ce qu'on modifie ces usages. Encore une fois, c'est des choses qui sont très récentes. C'est des plateformes qui ont pris beaucoup de pouvoir.
En très peu de temps. Ouais.
En très peu de temps, donc qui ne sont pas assujettis à la législation. On a beaucoup de mal à voir qui ont pris beaucoup de place aussi bien dans nos échanges sociaux que dans nos échanges politiques, que dans l'économie. Tu as ton podcast, tu n'as pas une page Insta, tu n'existes pas. Insta, ce n'est pas une instance publique. Hein. Si demain, Insta décide qu'il ne t'aime plus, et soit il te shadowban, soit il te ban, tu fais faillite du jour au lendemain. Et ça ne dépend pas du tout de règles d'organisation de la société. Et pour moi, c'est ça le vrai danger. C'est-à-dire, on a des plateformes privées ont pris une place tellement centrale au cœur de nos vies et qu'ils peuvent décider de ton bien-être, au final, de ton well-being, pas bien-être, j'en suis content, mais de ta capacité à vivre. Ouais. Et on n'a aucun retour démocratique. On parlait de démocratie. La démocratie, c'est aussi c'est une délibération commune de comment on veut organiser la société. On ne peut rien faire parce que c'est des boîtes qui sont américaines ou chinoises, par exemple pour TikTok. Et encore une fois, ça peut te ruiner ta vie. Si demain, tu te prends la tête avec quelqu'un qui est très haut placé chez Instagram et qui se dit, en fait, elle, on va la shadowbanner et tu vois tes vues et tout ça chuter à, je sais pas, 200, 300, alors que tu es à, je sais pas, 10 000, 15 000, 1 million, je sais pas combien tu fais de vues, mais je te souhaite autant que tu veux. C'est ta boîte qui capitule. Tu as un resto, tu n'es pas sur Google Maps, tu n'existes pas. Tu veux faire de la politique, tu n'es pas sur Twitter, tu n'existes pas.
Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, d'une certaine manière ? On a tous... un boss, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça. Les gens qui critiquent, en effet, les Meta, les GAFA, en effet, on est carrément dépendant d'eux, mais en fait, on est tous dépendants de quelqu'un, tu vois.
Non, parce que les boss, il y avait les droits du travail. Ton boss, par exemple, il te vire, tu l'emmènes au prud'homme.
Ouais.
Meta te vire.
Enfin, parce que...
En France, on parle en France, parce que les Français ont décidé.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a une sorte de décision collective. Meta te vire, tu fais rien. Tu fais rien du tout. Il n'y a pas de recours. Donc oui, on dépend tous les uns des autres. Encore une fois, on est des animaux sociaux, mais on avait un moyen d'organiser les liens sociaux. Et je ne suis pas en train de critiquer les GAFAM ou Meta. Je suis en train de critiquer le système politique. Parce que évidemment que je ne peux pas en vouloir à Mark Zuckerberg parce qu'il est content qu'il n'y a pas de contraintes sur comment il gère sa propre plateforme. Je suis en train de dire, nous, on est en train de ne pas assez bien réfléchir à comment on est en train d'organiser la société. Je ne suis pas du tout genre, ah, c'est les méchants, etc. Je dis, on est dépassé par les événements. Et il faut juste qu'on voit comment est-ce qu'on va restituer de l'agentivité pour que nos organisations soient meilleures.
On n'a pas parlé d'intelligence. C'est pas que je voulais absolument en parler, mais c'est je me questionne pour là m'intéresser un peu à la culture asiatique sur les différences de considération de l'intelligence à travers le monde, notamment eux. C'est une amie qui me disait ça. C'est, je crois, les top QI dans le monde, c'est genre Corée, Japon, Chine, enfin, tu vois, en gros, les pays asiatiques. Qu'est-ce que ça vaut vraiment comment peut-on travailler dessus, si on peut travailler dessus et si on veut travailler dessus. Je n'ai pas une injonction. Enfin voilà, juste je me pose
la
question.
Alors déjà, le QI, c'est un test qui... C'est très difficile de faire des comparaisons interculturelles.
D'accord.
Parce que c'est un test qui est indexé à la population où on le fait passer et aussi qui dépend de qu'est-ce qu'on en enseigne. Donc si toi, on ne t'enseigne pas les suites logiques, les machins, tu vas avoir un mauvais QI. Et le QI est un peu organisé pour, à la base pour la culture américaine, voire un peu européenne, etc. Et donc, on peut entraîner des gens à réussir bien le test du QI. Ça ne veut pas dire que le test du QI n'a pas
de valeur.
D'utilité ou de valeur. C'est un très bon prédicteur pour le résultat scolaire. C'est même parfois un bon prédicteur pour la réussite un peu dans la vie, etc. etc. Mais les comparaisons interculturelles sont un peu plus difficiles à faire. Et surtout, quand on parle d'intelligence... qu'est-ce qu'on met dedans ? Par exemple, en science, quand on parle d'intelligence, on est en train de parler de certaines capacités cognitives, la mémoire de travail, combien est-ce que tu peux garder d'informations dans ta mémoire de travail, ta capacité à raisonner, comment est-ce que tu peux intégrer des informations que tu connais déjà, tes compétences verbales, combien est-ce que tu connais de mots, combien est-ce que tu connais de synonymes, combien est-ce que la manière dont tu parles peut être enrichie, la logique. Combien est-ce que si tu fais des rotations dans l'espace, par exemple, tu as un cube avec plein de dessins dessus et je te dis si je le tourne 180 degrés, il ressemblerait à quoi, etc. Et comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Vous pouvez aller vous entraîner sur l'exercice du QI. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable pour tout le monde ? Je ne pense pas. Genre, est-ce que ça va vraiment m'aider dans ma vie quotidienne en tant que psy de pouvoir faire mieux des rotations dans l'espace de forme géométrique ? Je ne suis pas vraiment sûr. En général, pour n'importe quoi, la meilleure façon de l'améliorer, c'est de s'entraîner. Sur n'importe quoi. Mmh. Que ce soit l'intelligence, le sport, courir vite, battre un jeu vidéo, mieux comprendre les statistiques, c'est de s'entraîner. Je n'ai pas vraiment de baguette magique, de technique issue des neurosciences.
T'inquiète, on n'en veut pas, on sait que ça n'existe pas.
S'entraîner, ça peut se faire de plusieurs manières. Ouais. Il y a des méthodes d'apprentissage, par exemple, mélanger les sujets, ça aide. Ne pas tout, ça peut être du cramming, ne pas tout mettre et vouloir faire des grosses heures. Laisser du temps pour se reposer, dormir, s'hydrater, étudier en groupe.
D'accord.
S'entraîner en groupe, c'est un énorme motivateur. Si je veux devenir meilleur joueur de tennis, si je joue avec un pote avec qui je m'amuse, c'est moins chiant que si j'ai un coach. Je fais des séances avec un coach toute la journée. Donc la dimension sociale de l'apprentissage. Il y a une vidéo qui est sortie récemment, je ne sais plus qui l'avait mis, sur les mieux apprendre. Qui était pas mal faite.
Ok, moi je la mettrai dans les notes. Ouais. Mais ça t'inquiète pas, toi, de voir, pour le coup, on parlait de pression, cette obsession de la réussite et de l'intelligence qu'il y a dans certains pays d'Asie.
Si, bien sûr.
Où, tu vois, ça a des dégâts
énormes.
J'en connais qui vivent là-bas et c'est. En fait, les enfants vont à l'école de 8h à 17h ouais. Et ensuite ils vont à l'école du soir ouais. De 17h à 22h.
Ouais.
Pour continuer, et en fait, je me dis, mais c'est plus des humains, c'est des robots.
Ils sont en train
quoi.
D'essayer d'être la meilleure version d'eux possible. C'est ça le coup. C'est ça la question dont on parle.
Oui, mais comme je disais, la meilleure version de nous-mêmes, c'est ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que moi, la meilleure version de moi-même, ça peut être la version la plus épanouie de moi.
Oui, mais eux, pour eux, la meilleure
c'est la version la plus intelligente.
Ouais. Voilà le prix que ça coûte, c'est de ne pas avoir de vie et de passer sa journée à faire des maths. Mais ça, ce truc de meilleure version de soi, à une sorte de facette de la meilleure version aussi de, par exemple, mes enfants. En tant que parent, j'ai envie que mes enfants soient la meilleure version d'eux-mêmes. Et là aussi, ça a causé beaucoup de dégâts. On avait des enfants qui, le matin, vont à l'école, puis ils ont cours de tennis, puis cours de piano, puis cours de gym, ils ont leur cours de yoga, il faut qu'ils mangent sain, les 5 fruits et légumes, etc., etc., etc. Et du coup, on crée des enfants qui sont hyper, qui ont ce qu'on appelle de l'anxiété de performance, qui souvent développent des phobies scolaires, ils veulent plus faire des examens parce qu'ils ont peur de mal faire, donc ils préfèrent ne pas faire tout, parce que ces injonctions d'être the better self, c'est aussi
transmis aux enfants.
C'est transmis aux enfants. Et donc, on a des cas parfois extrêmes en Asie, mais on n'est pas si différents, nous. C'est juste qu'au lieu que ça soit juste les maths, nous, moi, je connais des parents, leurs enfants ont des agendas de ministres. Il y a natation le samedi matin, puis il y a le cours, je ne sais pas, d'équitation, puis il y a les cours d'échecs, parce que les échecs, c'est associé à l'intelligence, donc il faut évidemment que mon enfant sache jouer aux échecs. Puis il y a le foot, parce que peut-être qu'ils vont être les prochains Messi et Mbappé, etc., etc. Et ça aussi, c'est des injonctions. Et enfin, le problème de l'éducation, pour moi, le vrai problème d'éducation, c'est que c'est quelque chose d'hyper individuel. Donc on dit aux gens de faire des examens seuls, d'étudier seuls, de ne pas s'entraider dans des examens, etc. Et quand on finit notre cursus universitaire, on nous dit maintenant collaborer. Mais on n'a pas appris à travailler ensemble. Parce que toutes les études sont...
T'as les exposés de groupe.
Oui.
Genre, il y a un chaque 10 000 chose, emplois
et souvent une personne qui fait tout l'exposé.
Ouais, de ouf.
Et les autres se mettent à côté et ils lisent leurs fiches comme ça.
Ouais.
Donc il y a toutes ces... On appelle ça des injonctions paradoxales. On veut que les gens collaborent, mais on les enseigne à être... À prendre du plaisir juste de la réussite individuelle. Je suis le premier de la classe et donc je suis meilleur. Et donc, il y a encore cette dimension compétitive. Je ne dis pas que la compétition, c'est mauvais. Je dis que ça soit tout par le prisme de la compétition. Mmh. Ça crée pas mal d'effets délétères, comme la phobie scolaire, comme l'anxiété de performance, chez des enfants qui ont 14, 15, des ados qui ont 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui ne devraient pas avoir tellement de pression sur leurs épaules. C'est triste, à l'adolescence, d'avoir tellement de pression sur notre épaule.
Comment tu le vis, du coup, toi, par rapport à ta fille, tes enfants, si tu en as d'autres, mais...
J'ai une fille.
Ouais, moi je me
mets galère.
Je me mets à la place des parents, c'est genre non mais toi surtout sachant tout ce que tu sais,
oui, je galère.
Sachant que ce n'est pas bénéfique d'être comme ça, mais d'un autre côté tu veux quand même le meilleur pour elle.
C'est pas seulement je veux le meilleur pour elle, c'est que si moi je dis à ma fille je vais te transférer ma oisiveté, mais elle est avec ses potes, là elle est encore très jeune, elle a 2 ans et demi, mais quand elle sera plus grande, si elle est oisive et toute la société est en train de courir, elle va aller très très mal. Moi, j'ai pas reçu d'oisiveté par mes parents. C'est juste que des rencontres dans la vie m'ont développé ce tempérament et donc je le vis bien. Mais si je l'essaye de le transmettre à ma fille, je risque de l'abîmer beaucoup plus que si je l'inscris sur 10 cours le samedi, le dimanche, etc. J'essaye de faire comme je peux, mais je galère parce que on vit en société. Et ça crée un décalage. C'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Imagine que j'ai un ado, une ado de 13, 14 ans et je dis, moi, les réseaux, c'est très mauvais, donc pas de TikTok pour toi. Pas de TikTok pour toi. Elle va à l'école le lendemain. Tous ses potes sont en train de faire la dernière danse de Wednesday. Elle est isolée socialement.
Ah, tu suis les trends.
Ah, bien sûr. Ça fait partie de mon métier. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux à suivre qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Et du coup, elle est isolée. Et donc, le coup, parce que moi, je veux qu'elle ait une santé mentale saine, donc pas de réseaux sociaux pour elle. Le coup, c'est qu'elle est misérable avec ses potes. C'est hyper difficile et c'est quelque chose qui me fait pas mal peur et que j'appréhende beaucoup. De comment est-ce que je vais concilier ce que moi je crois être bien avec les pressions sociétales, avec elle, comment elle peut être vraiment bien.
Mmh.
Et donc on voit au cours de notre discussion comment est-ce que cette dimension médiative n'est pas du tout juste genre soit une bonne version de toi. C'est en train de moduler nos rapports sociaux, notre rapport même au divertissement. Je me demande, est-ce que me divertir c'est bien ou est-ce que je devrais même pas me divertir parce que c'est en train de m'impacter négativement? Et le divertissement, c'est pas nécessairement juste des séries. Bah, pour moi, aller voir mes potes, c'est du divertissement. Donc, ça dépend. Mais on voit comment il y a une sorte de modulation de toutes les facettes de la vie, où le seul alpha et oméga de la vie devient est-ce que c'est utile ou pas. Quelque chose qui n'est pas utile dans mon avancée vers une sorte de but. Et c'est quoi le but? Genre, ok, imagine que j'ai une baguette. Moi, j'ai une question pour toi. Imagine que j'ai une baguette magique. Et je fais, et maintenant tu es la meilleure version possible de toi. Now what? Genre, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, tu as réussi, tu t'es entraîné, genre, disons qu'on a une jauge, et tu es à 100% sur toutes les jauges, de tout. Ton attitude, ton contrôle émotionnel, ta carrière, tout le monde te connaît. Genre, c'est. Ok. Bah, on fait quoi après?
L'idéalisation que j'en ai, c'est une forme de satisfaction. Pleine, enfin okay. Voilà, mais connaissant le mécanisme de l'adaptation hédonique, je sais que ça ne durera qu'un temps et que je serai en effet très certainement malheureuse de ne plus avoir de marge de progression. Donc c'est pour ça que mon but n'est pas d'être la meilleure version moi-même, mon but est de progresser. Juste moi, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça que je m'épanouis.
Donc le but en soi, c'est. Donc le goal, c'est juste. C'est le progrès en tant que tel. Mmh. C'est pas où tu vas arriver en progressant.
Non, non, du tout. C'est le progrès. C'est de me dire que... Et en plus, j'accepte aussi le fait que parfois je recule. Mais c'est juste de me dire, ok, bah, dans un an, je serai peut-être plus compréhensive avec les autres. J'aurai réussi à peut-être être moins dans le contrôle. Okay. J'aurai peut-être écrit un autre livre sur un autre sujet qui m'intéresse. Enfin, voilà.
Okay.
Ça va, c'est pas trop négatif.
Si. Non, mais j'ai pas de jugement. Encore une fois, j'ai pas de jugement sur... Je sais pas, je rencontre une personne qui me dit « Moi, mon but dans la vie, c'est d'avoir $1 milliard. » Je le juge pas négativement. Le problème, c'est s'il dit « Les gens qui n'ont pas $1 milliard, c'est ceux qui ont échoué leur vie qui devient problème. » Donc, tu me dis que pour toi, le but, c'est juste de sentir que tu es en train d'aller de l'avant sur plein de compétences en toi. c'est hyper louable. Genre...
Ça me fait sentir vivante. Après, ouais. Après je te rejoins totalement sur le côté
individualiste. Mais il y a des facettes où moi, j'essaye d'être aussi le meilleur sur moi. Par exemple, d'être plus compréhensif, d'être moins dans, je sais pas, des réactions rapides, etc. Bien sûr que je le fais. La question, c'est combien de moyens est-ce que je vais allouer à ce truc ? Si, pour devenir plus compréhensif, il faut que je culpabilise si je regarde une série sur Netflix, c'est que c'est pas une manière hyper saine de devenir plus compréhensif.
Ouais.
Parce que je suis pas compréhensible avec moi-même dans ce
mais
cas-là.
Mais comment on s'en détache ? Parce que tu vois, je trouve que parfois, le fait d'en avoir conscience n'est pas suffisant.
Non, comprendre quelque chose n'est pas du tout suffisant.
Ouais.
Alors si je dis ça, je peux te le montrer en une seconde. Genre, je te montre une illusion d'optique, et je te montre que c'est une illusion, là où l'illusion d'optique est maintenue.
Mmh.
Ne s'effondre pas. On appelle ça des effets non-collapsible, c'est-à-dire savoir ne suffit pas. Et ça, ça dépend de chaque personne. C'est un travail qu'on peut démêler pour comprendre le pourquoi tu commandes, même si je comprends.
Mmh.
Beaucoup de gens qui vivent les injonctions à la beauté comprennent que c'est complètement absurde, savent que les photos qu'elles sont en train de voir sont photoshopées, mais se pèsent tous les soirs en se disant « Merde, j'ai pris 400 grammes ». Savoir ne suffit pas du tout, du tout, du tout.
C'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir de mode d'emploi pour en sortir. Tu vois, je pense qu'on est beaucoup à être victime de cette injonction à la performance. Et on aimerait se dire, c'est bon, là, je peux juste profiter de, je sais pas, prendre mon après-midi off sans culpabiliser. Mais je pense que oui, ça demande un grand travail sur soi, de rencontres, de lecture.
Oui, c'est une pression sociétale énorme.
Ouais.
Hein.
Est-ce qu'il y a des choses qui nous abrutissent ?
Il faut déjà voir c'est quoi être abruti. Il y a des choses
c'est qui perdre des compétences, des capacités, des neurones
Des neurones, non. On ne perd pas de neurones.
Okay.
A priori. En fait, donc on perd des neurones qu'on perd normalement. Non, l'alcool, l'excès d'alcool peut faire perdre des synapses, pas des
d'accord.
Neurones. Et là, je parlais de plus pas des substances. Parce que oui, si tu te shootes tu prends du crystal meth tous les jours, oui, tu vas t'abîmer, mais pas juste ton cerveau, tout ton corps. Et le cerveau est un organe dans un corps, il n'est pas détaché du corps. Quand on parle d'abrutissement, c'est un mot qui est comparatif, c'est par rapport à quelque chose. Et donc, ça dépend. Oui, on peut perdre des compétences sociales si je ne reste pas avec des gens.
Mmh.
On peut perdre en compétences si je fais tout le temps la même chose, bien sûr. Mais.
En compétences cognitives, si on ne pratique pas.
Oui, si on ne pratique pas, ouais. Oui, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il y a des activités qui créent une sorte d'abrutissement généralisé. En général, faire la même chose, genre la monotâche,
ouais.
Même si c'est la tâche la plus vertueuse au monde, on est en train de perdre ailleurs. Parce que c'est une sorte de zero-sum game. Par exemple, si moi je me dis, en fait, je ne veux plus rien faire que lire des bouquins hyper érudits, je suis en train de perdre ailleurs.
Lisez les romans qui vous plaisent, pas ceux que la société vous dit de lire. Écoute Albert, j'ai quelques dernières questions pour toi.
Ouais.
Si tu avais une ressource à nous conseiller, que ce soit un livre ou un film ou un podcast, qui t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ?
Je sais pas, One Piece.
C'est un manga, non ?
Ouais.
Ok, bah, super.
Que je lis depuis 20 ans, qui m'a beaucoup formé. Je le conseille pas aux autres, mais c'est quelque chose qui m'a touché. Après, en recommandation aux autres... Si on parle de l'oisiveté, il y a Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell,
okay.
Qui est pas mal.
Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre ?
Thibaut Griesinger.
Je connais pas.
C'est un pote chercheur.
Ok.
Et ça me ferait trop de...
Je vais regarder tout ça. Et la question signature du podcast, je suis très curieuse de ta réponse. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
D'avoir le choix. Juste. Quand on a le choix, c'est déjà énorme.
Super. Bah, merci beaucoup Albert pour cette conversation qui m'a beaucoup fait réfléchir. Si jamais les personnes qui nous suivent, enfin qui nous écoutent encore, et ils sont beaucoup, veulent te suivre, en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Alors je suis juste actif sur Facebook.
D'accord.
Parce que j'écris.
Ouais.
Et c'est la seule plateforme où je peux écrire.
Twitter, il y a Medium aussi, ouais.
Ouais, Medium, ça apparaît pas dans le fil.
C'est vrai.
Il faut que je
faut aller te chercher.
Je suis sur Instagram et je n'utilise pas vraiment.
Okay.
Si on veut me suivre, peut-être qu'un jour je l'utiliserai, mais pour le moment je ne l'utilise pas.
Et pour t'envoyer un message, du coup, c'est sur Facebook ?
Non, ou n'importe où en fait. On peut m'écrire sur, je vous donnais mon mail, c'est albert@chiasma.co, chiasma.co.
Ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes et puis bah, j'espère à très vite.
À très vite. Ciao, merci beaucoup.
Merci aux vrais d'être arrivés au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @albertmonquebert et @mybetterself, et envoyer un petit message à Albert si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, Plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.